Vous n'êtes pas sans savoir que nous en sommes à notre avant-dernière séance.
Ah oui.
Et que nous avons, oui déjà, et que nous avons eu déjà l'occasion de regarder de près trois artistes et trois œuvres. Vous rappelez un des artistes que nous avons vus, hein, la dernière c'était Marina Abramovic, une performeuse qui travaillait beaucoup, si j'ose dire, sur des questions notamment intérieures, et peut-être les rapports entre les gens aussi. Vous vous rappelez également de Kaderatia, hein, le premier artiste que nous avons vu, qui travaillait notamment des, on va dire, des questionnements sociaux, géopolitiques, etc. Et vous vous rappelez de Olafur Eliasson, qui, lui, nous proposait des sortes d'immenses installations, déjà quelquefois plus petites aussi, mais qui évoquaient, je dirais presque, le cosmos, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on va aller vers une personnalité artistique très différente des trois autres que nous avons vus. Je note d'ailleurs que Marina Abramovic, on l'avait considérée aussi en tandem avec Hullet, vous savez, ou la comment est-ce qu'on dit, en tout cas, celui qui, avec elle, en tout cas, avait commencé à travailler. Donc finalement, c'était, on a vu trois artistes et demi, si j'ose dire. Hein. Et vous savez que les critères de choix, c'est compliqué de choisir des artistes d'aujourd'hui. Hein. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Les critères que moi je me suis imposé, c'était, un, que ce soit des artistes qui, si possible, n'avaient pas fait l'objet de présentation dans l'atelier qu'on avait mené il y a 2 ans. On n'en a déjà parlé il y a 2 ans, on n'avait peut-être pas en parler aujourd'hui. Hein. Deux, des artistes évoquant et manifestant des tendances très diverses et très complémentaires. On a l'impression quand même d'avoir une sorte de panorama de l'art d'aujourd'hui, et par des artistes tous dans le même domaine. Des artistes également qui sont, je dirais, qui ont une certaine notoriété. Alors c'est compliqué la notoriété, le critère c'est quoi, hein, c'est assez difficile. Donc j'ai tout simplement regardé une publication qui s'appelle le Journal des Arts, hein, que vous connaissez peut-être, et qui publie chaque année une sorte de d'agenda de l'art contemporain qui montre, à travers un certain nombre de critères très objectifs, du genre nombre d'expositions, nombre de visiteurs dans les expositions, etc., qui fait une espèce de panorama de l'art contemporain occidental, ce qui permet d'avoir une sorte de classement, entre guillemets, hein, des artistes contemporains, et de dégager un certain nombre de personnalités qui sont parmi, en tout cas, les plus vues, les plus reconnues par le milieu, on va dire, dans le monde. Et les articles que je vais montrer font partie de ça. Bref, voilà quelques-uns des critères, hein, qui sont, je vais dire, imposés à moi pour faire ce choix. Alors aujourd'hui, on va voir une personnalité artistique, encore une fois, assez différente des précédentes. Vous connaissez nos petites règles sur lesquelles je ne reviens pas. Et donc, vous savez, comme d'habitude, nous allons d'abord regarder une œuvre de cette personnalité pour ensuite nous intéresser à plein d'autres œuvres, mais on va déjà regarder une pièce pour se mettre dans le bain et voir ce qu'il en est. On est prêt ?
Oui. Un cyclope.
Un cyclope.
Un montage.
Un
collage.
Un collage.
Donc on a une sorte d'un collage. En noir et blanc. Alors, effectivement, il y a une photographie, en tout cas, un morceau de photographie.
Oui. Oui. Ça représente un peu un théâtre de Guignol.
Ah, il y a le côté théâtre de Guignol, vous parlez.
Oui,
c'est les rideaux, enfin, c'est sorte de rideaux latéraux. En tout cas, c'est
de... la forme là de...
C'est ça, donc il y a à la fois les rideaux de chaque côté qui vont penser à un théâtre de Guignol, et puis la figure qui arrive au centre avec espèce de... Oui, tricorne, enfin bicorne, bicorne, qui fait penser à Guignol. Hein.
Ouais. On a l'impression que c'est sur un papier découpé, pas au massico, découpé...
Oui.
Comme un parchemin.
Oui. Donc, en fait, la photo dont vous parliez tout à l'heure, en tout cas le morceau de photo, parce que tout ça est découpé, vous l'avez dit, serait posé sur une sorte de papier un peu rudement découpé, comme on l'aurait fait sur un coin de table. Quoi. Hein ? Oui. Sur le plan toujours de la description un peu technique de ça, vous auriez à dire quoi encore ?
Il n'y a pas des questions de reflet de lumière sur la périphérie.
Sur ces éléments-là.
Les rideaux sont métalliques.
Oui, ils sont métalliques.
Lamés.
Voilà. C'est ça, voilà. C'est une sorte de lamé métallisé, vous savez, argenté, hein, puisque la photo, elle est en couleur, mais puisque c'est du noir et blanc et de l'argenté, c'est noir et blanc. Enfin, mais donc, effectivement, il y a cette espèce de reflet sur nos fameux rideaux de théâtre de Guignol, hein, de chaque côté. Ouais.
La photo, on dirait une photomaton.
Photo, un côté photomaton, oui. Donc photo un peu brutale, quoi, un peu immédiate, c'est ça peut-être que vous... Ouais. Ouais, hein, un truc schlock, c'est pas une belle photo, c'est pas un studio art court, quoi. Hein.
Par contre, la représentation, elle est travaillée, parce qu'on trouve que c'est très équilibré. Il y a la tête du personnage est bien centrée, de chaque côté, donc on voit que ça a été... Il y a une recherche sur le graphisme de cette image.
Oui, avec un axe de symétrie.
Hein, oui, très bien. Ouais.
Donc, si je vous entends, c'est presque une sorte de contraste, finalement, hein, entre une composition bien mise en place, quoi, et par contre, des éléments, je pense à cette photomaton, entre guillemets, que vous évoquez au centre, hein, les photomatons, bon, c'est pas quand même les bugs, enfin, je ne sais pas ce que veut dire beau et pas beau, mais ce n'est pas les plus, entre guillemets, bonnes photos du monde. Quoi. C'est ce clou que souvent on ferme un œil, on a une mèche comme ça. Enfin bref, on vous l'a
dit. Ça n'est pas en valeur.
Bon, oui, pas toujours, en tout cas. Voilà, voilà, c'est effectivement ce qu'on peut dire. Donc évidemment, il y a un côté un peu brutal entre cette sorte de photomaton un peu brutal qui est au centre, et puis cette mise en scène qui est plus organisée, on va dire. Hein.
La partie textile a l'air d'être en relief.
Alors, il y a une partie textile, oui, effectivement, là, qui est en relief.
Oui, un peu quoi.
Il y a une ceinture.
Oui,
une
ceinture de peignoir.
De peignoir,
voilà.
Ouais, ouais. Ah
ben non, moi, ça me faisait penser aux perruques que revêtent les juges britanniques.
Ah oui,
oui.
Oui,
c'est vrai.
Oui, oui. Ça fait un peu penser aux deux, d'ailleurs. Hein. Parce qu'à la fois, ça fait penser à une espèce de morceau de serviette... ou le peignoir, hein, il y a un côté un peu duveteux, vous voyez.
Oui.
Et puis en même temps, il y a effectivement, surtout que c'est à la place des cheveux, enfin, ça fait effectivement penser aux perruques. Souvent, les juges britanniques, en plus, on voit leurs vrais cheveux en dessous, il y a une perruque par-dessus, ce qui fait que c'est très très bizarre. Donc il y a un peu ce côté-là, oui. Oui.
Moi, l'œil du cyclope, il me fait penser à un objectif photographique.
Oui, c'est
ça.
Oui.
Une photo reprise dans
l'autre
sens.
Oui. Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est que cet œil du cyclope. Techniquement, je ne sais pas ce que c'est. Mais effectivement...
Une olive qui est couverte.
Oui, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que c'est un œil de poisson photographié en gros? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un côté objectif, c'est ça, ce que vous disiez. Hein, un peu comme un zoom de photo d'un appareil.
C'est pour masquer le regard de l'homme.
Oui, c'est quelque chose qui sert effectivement à souligner de manière forte, hein, le regard du personnage, effectivement. Hein.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire « moi je suis photographié, mais je peux vous photographier ?»
Oui, alors,
un retour.
Là, on passe effectivement de la présentation que je crois que vous avez bien résumée. Hein. D'ailleurs, cette œuvre, vous la verriez de quelle dimension à peu près? Que c'est pas pareil, c'est grand comme ça, ou si ça fait 2 mètres de haut.
Non, 50-60.
Oui, 50-50. C'est à peu près le cas. Hein. Pièce comme ça, quoi.
Oui, voilà. Dans les arts de dessin, quoi.
Oui, c'est ça, voilà. Et donc, ben, je crois que vous avez bien résumé, hein, ce que ça représentait, une commission assez équilibrée, qui évoque un peu l'idée d'une sorte de théâtre, hein, de Guignol, donc un théâtre un peu dérisoire, mais réel quand même, hein. Avec cette espèce de figure qui débarque en plein milieu, figure qui semble sortie de quelques photomatons, hein, mais au milieu du visage se détache une sorte d'œil, un peu comme un objectif photographique, de ce personnage un peu bizarre, cyclopéen, et qu'on a affublé d'une sorte de bicorne, à moins que ce soit une perruque, qui, elle, est faite avec une sorte de matière laineuse, en tout cas textile.
Non, pas une coiffe plutôt qu'une
coiffe.
Ça fait un peu bicorne de Napoléon. Hein.
Ah.
Oui, bon, c'est décidément les gendarmes des Guignols, c'est un peu les mêmes. Hein.
Oui, puis le bout du bicorne permet de tenir les rideaux, parce que sinon on se poserait la question, comment ces rideaux peuvent-ils se tenir ouverts la façon dont ils ont... Parce qu'ils suivent un petit peu le bicorne, les points de bicorne retiennent un peu les rideaux. Mm-hmm.
Ils ont un rôle d'écarteur.
Voilà, c'est ça.
Ok. Donc, on a bien vu ce que ça représentait. Vous êtes bien exprimé là-dessus. Ce que matériellement on avait sous les yeux. Hein. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez commencé à en parler parce que vous voyez, vous disiez que pour vous, ça évoquait quelque chose du genre moi, je vous vois. J'ai même cet appendice, cet œil qui est vraiment bien capable de vous scruter. Hein. Alors que vous, ce n'est pas le cas, parce que je suis dans mon théâtre et que j'ai des rideaux, en quelque sorte. C'est ça que vous vouliez dire, peut-être ?
Oui. Hein ?
Est-ce que vous voyez d'autres choses, d'autres... Qu'est-ce que peut exprimer, pour un certain nombre d'entre vous, une œuvre comme celle-là ?
Pour moi, ça serait plutôt plus réductrice, c'est-à-dire que la personne, elle ne voit qu'au bout de la lorgnette, elle ne voit pas ce qui se passe de chaque côté, elle n'a qu'une vision limitée. Mm-hmm. Au contraire, il faudrait pouvoir s'ouvrir et non. Quand on regarde, on ne voit pas tout. Mmh.
Donc, en tout cas, toujours quelque chose autour de la question du regard, soit un regard perçant qui permet de tout voir sans être trop vu, depuis ce poste d'observation qu'est le théâtre, cette espèce de personnage qui a un œil photographique à la place des yeux. Hein.
Ouais, ouais,
Pardon ?
Un Judas.
Un Judas, une sorte de Judas, oui, ça fait penser à ça, c'est vrai.
Il y a une notion de surveillance, peut-être.
Oui, oui.
Il y a deux autres sens qui sont sauvegardés. Il y a le nez et la bouche.
Oui.
Et Louis.
Qui, eux, fonctionnent toujours.
Et Louis, trois. Et les
oreilles.
Ouais.
D'ailleurs, vous avez vu comment, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez dit ça, comment la photo avait été découpée au centre, hein,
oui.
Pour laisser la place à ça qui est également un morceau, peut-être, de photo découpée. C'est-à-dire que les vrais yeux ont été vraiment découpés.
Oui, il y a trois niveaux de découpe.
Oui.
Oui, c'est bien le regard qui est important.
Oui, oui. Et d'ailleurs, découper, ça rejoint ce que vous disiez au niveau de la photomaton, hein, c'est découper de manière un peu...
N'importe comment.
Voilà. Hein, c'est vraiment rapide. Hein. Regardez la façon dont ça s'est fait. Enfin, c'est pas une belle découpe, d'ailleurs, ça non plus. Hein. Et là, vous voyez comment c'est découpé. C'est, je n'avais pas ce que dire, un peu vulgairement, c'est un peu salopé. Quoi. C'est très vite fait. Quoi.
Hein. Et là, c'est une photo aussi.
Pardon ?
Là, c'est une photo.
J'ai bien l'impression, oui. J'ai rien trouvé dans la littérature à propos de cet œil spécifiquement. Et là, en regardant en grand, j'ai l'impression que c'est aussi une photo de quelque chose. En fait, les éléments qui ne sont pas des éléments photographiques, c'est les rideaux en lamé argenté de chaque côté. Hein, et c'est cette sorte de serviette perruque bicorne que vous voyez là, qui est un morceau de toilette de salle de bain, enfin, c'est un peu
ça.
La serviette de toilette. Peignoir.
Voilà, ça fait penser à la serviette d'un peignoir, effectivement. Voilà, c'est un peu genre de choses. Hein. Donc, vous verriez une œuvre qui tourne autour de la question de la scrutation. Soit je vous scrute, soit c'est l'inverse, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous faites le même coup que la semaine passée ? Parce que depuis le début, la semaine passée, c'était l'artiste qu'on voyait. Et là, c'est l'artiste ou c'est pas l'artiste ?
À votre avis.
On va attendre la prochaine photo. On verra.
La prochaine photo, il a la même bouche. C'est
donc la question que vous posez, c'est celle de l'identification du personnage.
Ouais, ouais.
Enfin, est-ce que c'est un monsieur lambda sorti de je ne sais quel photomaton, hein, ou est-ce que c'est un personnage particulier et peut-être l'artiste lui-même, c'est-à-dire une sorte d'autoportrait, peut-être, par exemple. Hein. C'est ça que vous suggérez. Enfin, c'est la question que vous évoquez.
C'est l'acteur de théâtre aussi qui regarde ses spectateurs.
Et Big Brother.
Donc, décidément, cette idée du regard, bon, il est vrai qu'on est devant un cyclope, Donc, a priori, l'action de l'œil, elle compte beaucoup. Hein. Ouais. Donc, décidément, vous voyez une œuvre qui se tourne autour de cette question du regard. Ouais. Le regard est un peu le sujet de l'œuvre.
Hein. C'est un regard qui scrute parce qu'il a la bouche à moitié ouverte. Et donc, ça veut dire qu'il fait de l'application.
Mm-hmm. Il est concentré. Donc, c'est vraiment une œuvre qui tourne autour du regard.
Mais c'est neutre aussi, sa bouche, elle n'exprime pas de sentiments particuliers par rapport à ce qu'il voit.
Mmh. Ouais.
Mmh. Certains dédains quand même.
Un peu de dédain, ouais. Un peu de hauteur peut-être même.
Ou neutralité.
Oh, neutre.
Neutralité.
Là, plutôt neutre. Hein. Je vois neutre.
Bon, en tout cas, une sorte d'attitude qui oscille entre dédain et neutralité. En fait.
Oui, il va pas tarder.
J'essaie de résumer toutes les opinions. J'essaie de faire consensus. Ok. Est-ce que vous verriez d'autres choses à dire sur une œuvre comme celle-là?
La date.
Oui, vous verriez ça à quand?
70.
Bon, c'est vrai que les personnages dont on parle, on voit des œuvres très récentes, mais on voit que de fait des œuvres un peu plus anciennes, hein, qui permettent de montrer quand même leur parcours. Hein. C'est important, effectivement.
C'est pareil, il n'y a que le col roulé, à la limite,
qui peut... Puis la forme des
cheveux. L'année 60,
oui,
on verrait plutôt ça.
C'est vrai
que
dans les années 70,
ils ont
eu des cheveux longs.
Moi, je dis 80-90. Donc, oui, 80-90, une œuvre des années 80-90, mais on verra tout à l'heure. Si. Hein. Donc, une œuvre autour du regard, de la scrutation, hein, ou une espèce de cyclope, mais qui est un personnage qui serait peut-être l'auteur, qui serait peut-être l'artiste, peut-être pas, et là, qui nous regarde, ou au contraire, qui se fait regarder quelque part. Parce que dans un théâtre, c'est nous qui regardons les gens. Hein.
Ce qu'il y a aussi, c'est que sans le regard, il perd sa personnalité. C'est pas la personne.
Le fait que le regard lui ait été privé, finalement.
Oui.
C'est-à-dire, quelque part, ça met...
Ça le rend, pas objet, mais enfin, je sais pas comment dire. Mais
ça le handicap.
C'est ça. Ça lui enlève un élément fort de ce qu'il est. Mm-hmm. Hein. Avec le regard, ça compte dans un visage. Hein. Bon, le reste du visage aussi, on s'en rend compte.
Finalement, le masque, ça ne gêne pas le regard, donc c'est bon.
Non, ça gêne d'autres choses. Mais...
Par contre, le fond, je pense que ce n'est pas du papier déchiré, il y a une certaine épaisseur. On dirait plutôt une toile.
Ah, une toile?
Avec un enduit, oui.
Ah, ça.
Oui. Si vous prenez un papier 600 grammes, c'est déjà bien épais quand même.
Oui, je pense que c'est plutôt un papier quand même.
Ah oui,
je pense. Alors c'est vrai, mais un papier, vous avez raison, hein. C'est pas un petit papier léger, hein, pas un papier de soie. Hein. On est là devant un papier un peu épais. On voit les barbes, vous voyez, autour.
Ça peut être du polystyrène.
Non, je ne crois pas.
Ouais.
La découpe fait plus oui, c'est plus.
Mais vous avez remarqué d'emblée, hein, que la découpe était aléatoire, on va dire. Hein. Tout comme vous avez remarqué qu'encore une fois, c'était une photo de photomaton, hein, plus ou moins, donc c'est pas une belle photo, très bien faite, etc. Que tout ça était réalisé de manière un peu rapide. Hein. Une fois, la façon de découper les yeux, la façon de découper le buste. Alors c'est bien, c'est composé de manière équilibrée, mais il y a quand même une sorte d'urgence, de brutalité dans la réalisation. Hein. La personne qui avait ça n'a pas pris une belle règle pour couper bien droit ce qu'il avait coupé. Hein. C'est fait, c'est embouti, quoi. Bien, oui.
C'est pas logique au niveau des ombres, je trouve. Sur la partie gauche, là, l'ombre est très forte.
Il va vers le bas,
la pointe. Ouais. Et de l'autre côté, c'est très léger, c'est pas normal.
C'est vrai.
Ça aurait été fort par mal.
Alors, je pense que c'est dû. Là, je suis pas sûr qu'il y ait une intention. Je pense que c'est dû aussi à la. À l'éclairage de la photographie. Je pense pas qu'il y ait. Bon. Ça vous va?
Oui.
C'est bon? Est-ce qu'on avance dans notre... Ça va. Oui. Alors, on a vu donc cette première œuvre, qui est un peu l'œuvre qui nous fait rentrer dans le travail de cet artiste. Maintenant, on va regarder d'autres œuvres de son travail, à commencer par celle-là.
Oula. Il y a encore les problèmes, Dieu.
Oui.
Les yeux sont sur la couronne.
Oui.
Et les yeux sont vides.
Là, c'est une peinture.
C'est une peinture.
Alors voilà, d'abord, on est là devant une peinture, effectivement. Donc, on n'est plus devant, devant une, un collage. Hein, à partir
c'est
de
l'acrylique, ça, non ?
Pardon ?
C'est l'acrylique ?
Bonne question, je ne sais pas.
Pas sûr.
Pas sûr. Parce que ça peut être beaucoup de choses. Hein. Difficile de dire. C'est assez léger, j'ai l'impression. Hein. Je ne saurais pas. Précisément, je ne saurais pas vous dire. Et dans ce que j'ai consulté concernant cette œuvre, j'ai pas trouvé.
Il y a les pupilles qui sont décalées.
Oui.
Oui, puis il y a une ronde et l'autre ovale.
Parce qu'en bas, il y a rien.
Les narines de travail sont décalées.
De même, les narines ne sont pas symétriques.
Et à l'inverse, pas tout en
Donc, ce qui vous frappe visiblement, au-delà du fait qu'il s'agit donc d'une peinture et pas du même médium que la pièce précédente, hein, c'est que dans ce personnage, il y a à nouveau une question Dieu. Ce que vous avez tout de suite dit, c'est que les yeux étaient là sur la couronne et pas sur le personnage, ou du moins qu'il y avait deux paires d'yeux, les deux sur le personnage et les deux sur la couronne. Bon, je crois que c'est la première chose qui vous a frappé. Oui.
Un personnage un peu fantôme.
Un personnage un peu fantôme, un peu ectoplasmique, oui.
Et puis oui, l'animal.
Qu'est-ce qui te fait dire ça particulièrement ?
Oui, moi j'ai mis sage.
Oui.
Les autres sens sont quand même mis en valeur. Parce qu'il y a des grandes oreilles, oui. La narine est bleue, la bouche est bleue.
Oui. Ouais.
Par contre, rien n'est harmonieux là. Parce que les yeux ne sont pas harmonieux. Il y en a un qui est ovale, l'autre qui est rond. Les narines non plus, complètement dissymétriques. La bouche est de travers. Donc tout ce qui représente les sens, ça, oui. Il n'y a aucune harmonie.
Les oreilles sont très oreilles.
Les oreilles sont énormes. Les
Et puis
c'est bleu. C'est comme par hasard,
c'est découpé par rapport au fond de la toile.
Oui, c'est vide.
C'est comme un masque. Quoi.
Ouais. Ah, oui. Ah, oui.
Donc, si j'entends ce que vous dites, si je résume peut-être ce que vous dites, hein, au-delà de cette question de la prégnance des yeux qui sont sur le personnage et sur la couronne, ce qui vous frappe, c'est le côté un peu ectoplasmique du personnage, cette figure un peu blanche et un peu nébuleuse, d'une certaine façon. Hein. Le côté un peu animal, peut-être, brutal du personnage, hein, avec ses yeux qui sont d'ailleurs pas égaux, ses grosses narines, ils font penser à un groin, d'une certaine manière. Cette bouche un peu...
un cou énorme.
Un gros cou. Donc, un fantôme, mais un fantôme d'un personnage un peu animal, non ?
Oui.
Vous n'avez pas dit grand-chose sur la couronne, sinon dire qu'il y avait une couronne.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Qu'est-ce qu'elle fait là ?
Les yeux sont dans la couronne.
Il veut qu'on se fixe sur cette couronne par rapport au regard.
Ah oui ?
Oui, parce que le regard a quand même un là.
Parce que si c'est une couronne, oui, quel sens a-t-elle, quoi ?
C'est le roi nu.
Une sorte de roi nu. Oui, d'ailleurs, il est effectivement nu. Enfin, ce qu'on en voit, il est nu. Hein. Oui.
Qu'importe le personnage, le pouvoir réside dans sa capacité à voir et à surveiller.
Uh-huh. Et la surveillance est dans la couronne.
Uh-huh. Donc, le symbole du pouvoir.
Donc, on aurait là une sorte de symbolique du pouvoir, c'est-à-dire une espèce de personnage un peu insaisissable, un peu animal, brutal.
Mais qui est adoubé par sa couronne.
Mais qui, à qui, effectivement, à la couronne, qui lui donne quand même le pouvoir que l'on sait quand on voit une couronne, on pense que c'était un roi, vous avez prononcé le mot. Hein. Avec, sur sa couronne, des yeux que lui n'a pas, mais que la couronne a, comme pour suppléer à ça, d'ailleurs, ou compléter son propre regard. Oui.
Ça fait penser à quelqu'un qui appartiendrait à un pays totalitaire. Et qui veut un peu justement accuser ou mettre en avant ce côté surveillance, etc. Et donc dépersonnalisation des gens. Quoi.
Mm-hmm. Donc on aurait une œuvre autour de ça, autour de la question de la surveillance. Vous parliez de pays totalitaire, on aurait là une sorte d'allégorie peut-être, un genre d'idée. Hein. Oui.
Il y avait aussi une notion de surveillance dans l'œuvre précédente.
Oui. 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 Oui, donc on aurait clairement une sorte de quelque chose d'assez homogène entre les deux œuvres.
Hein. Répétition, enfin, la même idée.
La même idée. Donc une idée autour de la surveillance, du regard, de l'observation, et peut-être moins, de manière pas très anodine. Hein, vous parliez de pays totalitaire, oui, pas très anodin. Hein.
Oui, c'est vraiment pour surveiller.
Ça. C'est ça.
Donc pour maîtriser les gens, quoi. Pour,
Avec les grandes oreilles.
Oui. Oui. On regarde, mais on écoute aussi. Oui.
Bouche.
Oui, puis il peut y avoir aussi un autre regard, toujours avec ça, c'est que à partir du moment où on a un pouvoir d'observation, on peut être complètement stupide, bête, moche, mais à partir du moment où on a la couronne, on a le pouvoir et le regard, le plus idiot peut être le plus totalitaire.
Mm-hmm. Oui, donc ce personnage un peu animalesque serait une sorte de
roi fou.
De roi fou, voilà, de roi fou.
Monsieur
un peu niais. Mm-hmm.
Mais il a le pouvoir.
Vous parliez également, oui, au-delà d'une part de l'idée de la brutalité, de l'idée du fantôme dont vous parliez tout à l'heure, de l'idée le côté animal, je crois que j'ai déjà dit. Est-ce que c'est ce visage, ce personnage, vous suggère aussi autre chose encore?
Le bras de folie, quand même.
Oui, la folie. Ouais.
Ou alors on est chez les fous, quoi.
Oui, la folie, je ne l'ai pas dit dans ce que j'ai résumé. Non, j'ai oublié. La folie, ce que vous venez de le dire. Voilà. Oui, donc c'est le côté animal, le côté un peu fou. Et... Il y a un peu de juvénilité, non, vous ne trouvez pas?
Oui.
Hein?
De quoi?
De juvénilité. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que quand on pense à roi, surtout dans la culture occidentale, vous savez, on pense tout de suite à un vieux roi barbu, avec les cheveux gris, etc. Bon, là, c'est exactement l'inverse, quoi. Espèce de roi juvénile, mais qui serait marqué par tout ce que vous dites, quoi. Le côté spectral, le côté fou, le côté animal.
Dégénéré.
En quelque sorte.
Et très dissymétrique.
Oui, assez dissymétrique.
Sinon, il a quoi de travers ?
Bien.
Il a la mèche du terre.
Ah oui, couronne. Je ne sais pas si c'est une mèche ou si c'est le...
Non, c'est la couronne, je veux dire.
Ouais.
La couronne, elle est penchée comme la mèche.
Oui, je comprends. Ouais, d'accord. Ouais, oui, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est intéressant comme idée.
C'est vrai que la couronne, elle est brune, c'est
pas bien
brune.
Oui.
Elle fait assez en papier, la couronne. Elle fait pas...
Elle fait assez
comme si elle était en papier.
Oui,
c'est une couronne, on n'y croit pas trop. Voilà. Mais enfin, elle est quand même là. Il y a une autre chose qui fait qu'on n'y croit pas trop, je trouve, ce que vous disiez, ça ressemble à la mèche.
C'est à la fois dérisoire et puis en même temps...
Peut-être qu'il y a quelque chose qui résume ça, c'est-à-dire que cette couronne, elle est là, c'est quand même une couronne. Hein,
mais elle est mal posée.
Elle est mal posée, elle est de côté, elle traviole, elle est...
Donc elle n'a pas de poids, parce que les vraies couronnes, ça tient.
Ça tient. Donc il y a effectivement un côté dérisoire.
Heureusement qu'il y a les oreilles pour arrêter.
Ça va l'aider au niveau
des oreilles. Ça va bien à leur position.
En fait, c'est ce qui rend cette image aussi inquiétante qu'attachante, quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non. C'est-à-dire que, à la fois, je trouve qu'il a l'air sympa, quelque part, et en même temps, il est très troublant. Non ?
Non, je
ne trouve pas sympa.
Vous ne trouvez pas sympa ?
Non, il est inquiétant.
Si, il y a une ambiguïté. Hein.
Moi, je ressens comme ça, mais... Je ressens comme à la fois assez... Et justement, le côté un peu bêta, on pourrait dire tout à l'heure, un peu niais, lui donne ce côté attachant.
Il ne fait pas vivant.
Oui, alors c'est le côté spectral.
C'est la couronne.
Oui. Non, mais c'est vrai que le côté spectral est effectivement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a un côté ectoplasmique, quoi. Mais justement, c'est aussi... Je trouve qu'il a un côté gentil fantôme de jeune roi, vous voyez.
De roi fou, moi.
Oui, de roi fou, un peu fou.
Je reprends l'idée que disait madame. Derrière, il y a... C'est le bleu de... Donc on n'a que l'apparence hein, du bonhomme.
Oui.
On n'a pas le fond.
Oui.
Oui, c'est comme s'il avait mis un masque et qu'il était derrière le masque.
Oui, oui. Oui, oui, il y a... Il y a...
Le bleu.
Ouais, ouais. 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 Enfin, ce que je retiens quand même de tout ce qu'on vient de dire, là, c'est ben, quand même hein, le côté très ambigu d'une image comme celle-là, quoi. Mm-hmm. Non
ouais, il a une lèvre proéminente.
Ouais. C'est un roi, mais on n'y croit pas trop, avec sa couronne de travers, et qui a l'air d'une couronne de galette des rois, en carton.
Ouais.
En même temps, ça rigole pas, parce qu'il a un regard assez scrutant, vide, hein. Donc un peu spectral, enfin, et puis il a des yeux sur sa couronne, donc un double regard pour observer, hein, qui avec ses grandes oreilles lui permet d'entendre, de comprendre, d'écouter. Puis en même temps, on n'y croit pas trop parce qu'il a un côté un peu fou, donc une image où tout va un peu en sens contraire d'une certaine manière. Puis,
l'atmosphère est sombre, puisque.
L'atmosphère est sombre, alors que lui est tout blanc. Hein.
Mmh.
C'est un spectre. Blafard dans un enfer sombre.
Avec des flammes bleues.
Oui. Enfin, c'est un peu comme si les codes étaient en permanence renversés, je trouve, non ? Ce roi ne correspond pas dans un majorat pour son sang éteint. Espèce de jeune homme, mais qui en même temps fait un peu peur, dans ce côté spectral. Enfin, il me semble que c'est une œuvre qui, en vous écoutant, hein, va comme ça dans deux sens différents. On regarde... Ah, moi aussi. Je me permets, parce qu'on a dit qu'on avait le droit de se dire... Autrement...
Oui, et c'est, il est double, comme la première œuvre, où on demandait est-ce qu'il scrute ou est-ce qu'on est scruté.
Mais oui.
Et là, c'est pareil.
Oui, je trouve, oui.
Il veut toujours donner deux sens à ses œuvres.
Oui.
Et la symétrie des yeux rend forte... Le caractère scrutateur.
Les yeux au-dessus et en dessous, vous voulez dire
ouais.
Scrutateur.
Scrutateur, oui.
Au-dessus, c'est bien au-dessus, parce que ce qui dérange beaucoup, c'est ce côté rond. La désymétrie, c'est vrai que c'est
hyper
dérangeant. La symétrie est gênante.
Ouais. Ouais. C'est un trompe.
Ouais, c'est marrant, parce que moi, ça ne me frappe pas. Donc, on est tous différents.
Bah, quelque part, l'œil de. Attendez, celui qui est à droite sur l'image.
Oui, effectivement, il y en a un circulaire et l'autre en
bas. Il ressemble quand même à la lorgnette qu'il y avait dans le truc d'avant.
Oui, oui.
Les trous de nez sont différents, les
oui.
oreilles sont différentes.
Oui, oui, vous avez raison.
Tout est différent.
Oui, oui. De toute façon, moi, ça ne m'avait pas trop frappé, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, on regarde l'œuvre suivante.
Marteau.
Ah, marteau, la fille. Donc l'esprit totalitaire revient.
Oui,
la peinture.
Alors, qu'est-ce que vous avez d'abord formellement là sous les yeux ?
Comme un drapeau.
Oui, alors ça, c'est déjà l'interprétation. Mais au niveau. C'est quoi, quoi ? Vous avez quoi ?
Des
pixels. Donc des pixels. Donc c'est des.
Une espèce de. Numérique.
Non, une image numérique.
Moi, je pensais à un tissu.
Un tissu oui.
Moi, je pensais à un tissu.
Ah, ouais, c'est pas pareil. Hein,
une broderie, non, quand même. Non.
Broderie.
C'est un tissu imprimé. Moi, un tissu imprimé.
Oui, parce qu'on voit des traces.
Alors, vous êtes plutôt pour. Parce que c'est pas pareil en termes matériels. Hein.
Ouais.
Donc, soit c'est une image numérique, c'est-à-dire un truc plat, si vous voulez, hein, qui est fait par. Voilà. Soit c'est un tissu. Vous parliez même de tissu brodé.
Oui.
C'est plutôt un petit point de croix.
non.
Ou alors tissé, carrément.
C'est
qu'on aurait quelque chose qui serait. Les motifs seraient dans le tissu.
On voit par moment
le
bois. Par exemple, il y a un
parce que c'est très.
Imprimé, on ne peut pas suivre la trame comme ça.
C'est très symétrique.
Parfois. On voit vraiment comme des petites briques, enfin des. Je sais pas.
Oui, des briques, ça fait du tissu.
C'est pas des Lego, hein, non.
Ouais, ça fait penser à.
Oui, une mosaïque.
Une mosaïque,
oui. À une mosaïque.
Oui.
Et puis bandes blanches et rouges.
Parce qu'effectivement, on voit des petites choses les uns à côté des autres. Enfin, vous voyez ça de quelle taille d'ailleurs ?
Assez grand.
Grand.
Assez grand. Mais disons quoi, 3 mètres de haut, 2 mètres ?
Peut-être pas mis sur 2 mètres.
Oui. 5 mètres, c'est carré.
Bon, oui, carré. Alors,
pas
tout à fait, non. Je réinsiste un tout petit peu sur le médium. C'est pas tout à fait pareil en termes de d'impression visuelle, hein, mais aussi de sens, je crois. Si c'est quelque chose de tout à fait plat, c'est-à-dire un travail numérique qui donne donc une chose assez, ben, comme une photo, finalement, quelque chose de plat, hein. Et si c'est plutôt ce que vous disiez. C'est-à-dire une œuvre textile, alors qui ensuite est soit une œuvre textile avec de la broderie, soit une œuvre textile entièrement
imprimée,
oui. Vous pensiez également à quelque chose qui était
brodé.
Brodé, oui, mais il y avait un autre mot. Le fait que le motif soit à l'intérieur du tissé. Voilà.
Mais
donc,
la faucille n'est pas tout à fait ronde, donc ça prouve que c'est
Oui, ça suit les carrés.
Ça suit les carrés.
Donc vous seriez plutôt pour l'image numérique, peut-être ?
Je suis assez pour l'image numérique parce que j'ai vraiment l'impression que tous les motifs sont parfaitement identiques.
Oui.
Et ce serait bien copier-coller que ça pourrait très bien marcher.
En tout cas, je note qu'il y a les tenants de l'image numérique, donc plate, voilà, et puis les tenants plutôt de l'œuvre textile, tissée, brodée, imprimée.
Et une mosaïque, pourquoi pas ?
Ou alors, ou encore une mosaïque.
C'est du numérique sur du textile.
Ah, c'est un textile fait avec du numérique.
Ouais.
Ça, c'est possible aussi. Oui. Alors, ça peut être une impression.
Pour que ça suive la trame, eh ben, il faut qu'il se lève de bonheur. Hein.
Oui.
D'ailleurs, c'est un extrait de quelque chose, parce qu'on voit soit à gauche, soit à droite, la continuité.
Ah, c'est pas gentil.
Il a peut-être fait. Si c'est un tissu,
oui.
Oui,
c'est vrai.
Ça peut grandir.
Non, c'est pas bien. Peut-être. Ce que vous disiez.
Je sais pas.
Non, mais en peinture, justement, on n'est pas obligé de terminer tout le temps les dessins, ça peut déborder.
Ah, si, madame, moi je termine.
Ah, bah, moi, des fois, je termine pour.
Ok. Alors, donc, on a une petite incertitude sur la matérialité de ça. Donc, plutôt œuvre textile ou bien plutôt œuvre numérique, mais sur papier, donc plate. On a même pensé à la mosaïque. Ok. Maintenant.
C'est trop régulier pour que ça soit de la mosaïque. Aussi.
Pardon ?
C'est trop régulier pour que
trop
ça
régulier.
Soit.
Moi, je pense que
donc plutôt textile ou plutôt impression numérique sur papier. Hein.
Parce que aussi sur du textile, pour faire ces bandes de rouge comme ça, les poils, ça me paraît. Enfin, je sais pas.
Difficile.
Si c'est un pays totalitaire, le tissu est très important chez eux. Parce que c'est souvent la base du travail. Tandis que tout ce qui est pixel, impression, tout ça, c'est plus occidental. Enfin, dans l'idée, hein. Si on va sur l'idée d'un pays, plutôt Chine, Russie, ou tous ces pays de l'Est. Hein.
Donc ça donnerait peut-être une idée sur l'origine de la personnalité qui a fait ça, l'artiste.
Oui.
Parce que à votre avis, qu'est-ce que ça... Alors, justement, abordons peut-être, maintenant qu'on... On s'est interrogé sans trancher tout à fait hein, sur la matérialité de l'œuvre. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? C'est quoi l'idée ?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mix entre le drapeau américain avec les bandes et puis la faucille et le marteau. Mm-hmm.
Oui, c'est juste que je me pose comme question. Parce que par rapport à quel pays ces bandes rouges, ça fait référence ? Si ça se veut représenter quelque part un fond de drapeau ou quelque chose comme ça qui représente un pays. Alors, est-ce que c'est la couleur rouge qui est importante ou est-ce que c'est le fait que c'est des bandes rouges et des bandes blanches ? Et là, j'avoue, je ne sais plus. Le drapeau russe, il est comment ?
Tout rouge. Et tout
avec
rouge.
La faucille et le marteau en jaune sur rouge.
Il y a des étoiles,
c'est bleu, blanc, rouge.
Donc, en tout cas, ce que vous dites, c'est qu'on a là, finalement, comme la superposition de deux éléments. D'un côté, ce qui serait une sorte de l'évocation d'un drapeau, hein, et même si on s'interroge sur le drapeau, ça fait penser à un drapeau, d'une part, et d'autre part, cette représentation de la faucille du marteau que vous avez tout de suite vue, hein, et qui est là, et qui évidemment se réfère à quelque chose qu'on connaît bien. Bon, voilà. Donc on a superposition de ce signe-là, la faucille et le drapeau, et du et la faucille et le marteau, pardon, et du drapeau. D'accord ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que cette évocation double, une manière de drapeau et puis un signe qui correspond quand même à une géopolitique du XXe siècle qu'on identifie tous, hein. Qu'est-ce que ça, je sais pas, qu'est-ce que ça suggère en vous,
la
volonté, pardon ?
La guerre froide.
La guerre froide ?
Non, moi ça c'est plutôt l'écrasement du peuple par cette faucille et ce marteau, oui. Sur le travail, justement si on revient au tissu, si on se réfère à l'observation d'avant, ce serait plutôt un peuple qui souffre.
Donc pour vous, c'est plutôt l'évocation d'un peuple qui souffre.
Oui.
Quand on regarde d'une certaine manière, on finit par avoir une... Moi, je vois une armée de gens.
Absolument.
Soit une armée, soit, je ne sais pas, un cimetière.
Ça recouperait un peu ce qui vient... Pardon, vous verriez.
Un cimetière aussi.
Un cimetière. Donc finalement, pour certains d'entre vous... cette espèce d'accumulation de signes sur fond de drapeau fait penser à des populations, hein, des gens, hein, ou un cimetière, d'ailleurs ça revient à vous-même, à des gens. Hein. Voilà, donc quelque chose qui évoque des gens qu'il y a derrière.
Hein. Ça ressemble à des défilés des pays de l'Est,
oui.
Où on aurait remplacé les personnages par faucilles et marteaux.
Il n'y a pas d'espace pour respirer. Il n'y a pas d'espace pour respirer.
Oui. Donc une sorte de foule comme ça.
Oui. Hein. D'oppression.
Oui, une foule un peu oppressive. Il ne fait pas chaud ici, je trouve.
Non.
Ici.
Bon.
Ça va. Bon. OK. Et est-ce que tout le monde en est là ou est-ce que vous voyez l'autre chose? Enfin, cette œuvre-là, est-ce que ça vous fait penser à d'autres choses? Vous, je sais pas, vous suggère d'autres.
On a envie d'en sortir.
Oui. Voilà. C'est ça. Ah oui. Est-ce que vous trouvez ça oppressant, si je comprends?
Oui, oppressant, oui.
Mais oui, il n'y a aucune profondeur, c'est vraiment.
C'est ça que je dis, il n'y a pas d'espace pour respirer.
Il n'y a pas d'échappatoire.
Pas d'espace, une impression de foule plus ou moins laborieuse ou plus ou moins ensevelie.
Hein.
Opprimée.
C'est même pas une foule, parce qu'une foule, c'est pas régulier, là, c'est hyper régulier.
Ouais, comme les défilés militaires.
Il faut qu'ils soient.
Ou les chorégraphies chinoises, c'est interdit.
Ça fait un peu ronce, les faucilles. On s'en sort pas.
Oui. Bien, pas dit dedans. Ça va loin, hein.
Ah oui,
okay.
On enfonce le clou, hein.
Très bien. On voit la suivante.
Oui.
Il y a encore un regard.
Ah là là, le regard.
Inquisiteur.
Il a mis son truc à l'envers.
Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi.
Ah non,
c'est
peut-être
l'inverse. Hein.
C'est fait exprès pour être.
Non, c'est pour être le quelqu'un.
Ça fait un peu camisole de fou, là.
Qu'est-ce qui vous fait penser à ça, d'ailleurs?
Bah, c'est le côté d'avoir le bonnet, mais surtout le bonnet sur un... Enfin, après, ça fait très rigide.
Sur la sorte de chemise bleue.
C'est toujours le regard.
Très bleu, très fermé, très... Enfin...
Mais la chemise, elle est à l'envers.
Elle est à l'envers aussi.
La chemise aussi, est
à l'envers. À l'embon.
Oui, il y a le pli derrière.
Oui,
ça dépend.
Ça dépend.
Oui.
Bon, cette fois-ci, le regard est là, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas respirer, il est toujours opprimé.
Mais alors, l'œuvre que vous avez sous les yeux, c'est quoi finalement?
Une photo.
C'est une photo.
Une photo,
un personnage qui est un homme.
Donc l'œuvre, c'est cette photo d'un personnage.
Qui est muselé.
Homme, peut-être. Ouais.
Il est muselé.
Muselé.
Oui, qui est muselé.
Mmh. Une espèce de cagoule.
Surtout que dans la cagoule, il y a quelque chose en bas. On a soit une barbe, soit quelque chose, je ne sais pas quoi.
Non, le menton.
Non, c'est le menton.
Peut-être Habsbourg, il a peut-être là, le menton.
Il a un menton proéminent.
Ah oui,
proéminent,
c'est vrai.
Mais
c'est vrai.
Alors,
une cagoule comme
non,
ça,
c'est
bien froid.
Hein.
Puis on retrouve toujours ces croix, ces dessins qui sont...
Ouais. Oui, donc là, on trouve quelque chose qui te fait penser à quoi, par exemple?
L'œuvre de précédente.
Précédente, oui. Ouais. Oui, c'est toujours cette manière de mettre des signes comme ça.
Des plus et des moins.
Oui. Parce que là, par exemple, ces croix bleues, vous voyez là, je ne sais pas, ça fait penser à quoi ?
Il y a des plus et des moins.
Oui, il y a des moins à droite.
Oui,
des
moins.
Des moins à droite.
Moitié-moitié.
Et ces croix, alors ces croix ou ces traits vous font penser à d'autres choses que simplement des plus et des moins, enfin, déjà pas mal.
Des blessures. Des pansements.
Des oppositions.
Oui.
Aussi.
Oui, plus ou moins. Voilà. En tout cas, ce que vous avez remarqué, c'est le fait qu'il y ait des signes, comme dans l'œuvre précédente.
Oui. Et puis, il y a des croix qui sont transformées en X.
Multipliées.
Oui. Ça dépend comment.
À quel endroit c'est dans le, sur le visage ou sur la queue.
C'est dans la diagonale.
Ouais.
Si on regarde vertical,
par contre, il ne regarde pas de face. Il est trois quarts. Et le regard est oblique.
Il regarde sur le côté.
Il regarde. Comme s'il évitait de trop regarder
de face.
Sa tête n'est pas de face.
Oui, non, c'est ça, il est trois quarts.
Il regarde l'objectif.
L'un objectif, il est de l'autre côté.
Tu regardes en face.
En tout cas, ça vous fait parler.
Et ces sens-là sont supprimés.
Oui.
Cette espèce de
cagoule entièrement fermée, sauf les yeux, laisse plus de place à grand-chose d'autre.
Oui. Ouais. C'est le contraire de la première image.
Oui.
Il n'y avait pas le regard, mais il y avait tous les autres sens, et là, c'est le contraire.
Ouais. Ça fait un regard quand même assez inquisiteur.
Oui.
Il a des yeux clairs, il a des yeux très... Enfin, je sais pas, ça.
C'est pas le regard de Poutine encore.
Un regard très sympathique, quoi.
Ah non.
Il regarde pas avec amabilité en face.
Il sourit pas sous la cagoule.
Non, oui, mais il n'a pas un regard.
Ça, c'est le charme.
Non,
c'est
le
Non, il n'est pas agressif, mais il est là.
Moi, je trouve inquiet plutôt qu'agressif.
Non, il observe.
Oui, c'est cher, mais il n'est pas
méchant. Il nous demande qu'en pensez-vous.
Vous voulez la même?
Oh, il fait pas assez froid.
Il y en aurait d'autres, là.
Par contre, là, on a du bleu. Du bleu et du blanc. C'est des couleurs. Bleu et blanc. C'est froid.
Donc, si je résume, une œuvre qui est une photographie qui montre un personnage, plutôt un homme, vous aviez l'air de dire, revêtu d'une cagoule très couvrante, qui laisse apparaître que les seuls yeux, tout le reste étant occulté. Et sur cette cagoule apparaissent des croix bleues et des traits bleus, une sorte d'évocation par des signes du plus et du moins. Et vous avez vu aussi comment ces signes-là vous faisaient penser aux signes déjà très répétitifs qu'on voyait sur l'œuvre précédente, par exemple. Ça vous va, ça ?
Oui.
Hein ? Bien.
C'est une famille de signes.
On y va ?
Deux couleurs, une croix, qui veut être en 1999. Donc on était 80-90, on est pas mal là.
Ouais.
Puis avec ce trait orange là.
Qui sera dans quoi?
Point d'interrogation.
Dans la croix. D'abord, techniquement, qu'est-ce que c'est ça?
Un tissu,
un papier. Décidément, il y a la même interrogation que tout à l'heure. Hein. Tissu.
On voit encore des trames.
On voit des trames. Donc on est devant un textile. Je vous avais la même interrogation que déjà en palette précédente.
Mais on a peint sur ce textile.
Donc là, c'est un textile peint. OK. Et alors, on a peint quoi?
Une croix. Encore.
Qui était le même dans un cadre.
Oui.
Qui enferme la croix.
Et puis tout est dur. Parce que même les lettres, elles sont écrites en... Peu d'étresse.
Ouais.
Enfin,
c'est... Anguleuse.
Il y a
hein.
un angle droit. Il y a ouais. aucune courbe. Hein.
Ouais.
Il y a rien pour adoucir.
Oui. Donc on a visiblement une pièce textile hein, sur laquelle on a peint une croix noire sur fond blanc. Hein.
Tout est en noir et blanc, sauf
ouais.
ce fameux trait orange.
Sauf ce trait orange,
qui
ouais.
souligne le
ouais.
titre, enfin, la question.
Oui.
Et donc c'est... Qui sera mort en 1999.
Oui, c'est un peu ça.
Bah, le texte, est, pour moi, est ambigu parce que « will be in ». Ça peut être est-ce que je serai dans la boîte
oui.
ou est-ce que je serai in au sens de dans le coup.
Oui.
Oui, oui,
ah, oui. oui.
Donc une ambiguïté du texte, quoi.
Pour moi, oui.
On nous trouble un peu. Et la croix, vous la voyez donc comme une croix mortuaire, en fait.
Oui.
Une croix de cimetière. On parlait de cimetière tout à l'heure.
Oh non.
Non. Ah non. Alors cette croix, c'est. Vous avez dit, dès que c'est apparu, oh, tiens, c'est comme précédemment,
vous savez,
le gars avec ses pièces à gagoules, là. Hein, voilà. Donc, cette croix-là, je ne sais pas, elle vous fait penser à quoi, elle vous...
Je ne sais pas, ça peut être la croisée des chemins. Mm-hmm. Enfin, parce que ça, il y a une notion quand même de rang 99, donc d'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Mm-hmm. Donc, on peut se poser la question.
Ok, donc l'idée de la voie, du chemin, du, ouais. de l'avenir, de...
Bon, il n'est pas très gai, l'avenir.
Mais c'est très cadré.
Ouais, il y a un peu de noir.
Très cadré.
Ah oui. Et puis c'est un noir profond.
Oui. Ouais,
c'est vraiment lourd. Hein. C'est un noir.
Noir, noir, noir. Hein.
C'est les grands.
Que des noir. Idées noires. Là.
Noir, c'est noir.
Que des idées noires. Malevitch.
Ça me fait penser à Malevitch.
Ouais. Ouais. Ça vous fait penser à Malevitch. Qu'est-ce ouais. que vous fait penser à Malevitch
bah, la croix sur fond blanc.
Ah oui.
Oui.
Oui. Effectivement, hein, Malevitch, une des œuvres de Malevitch, c'est un tableau carré qui est dans une croix noire sur fond blanc.
Ouais,
donc on en est là, la reprise de ce tableau, finalement.
Ouais, ouais.
Et pourquoi alors ?
Malevitch, c'était déjà la Russie. Hein.
On est toujours, mmh. on est toujours décidément dans ces affaires de l'Est.
Est-ce qu'il y a une question de date entre les deux ?
Ah.
99, c'était la grande peur de l'an 2000. Là,
oui.
Ben, si c'est 1990.
Ouais.
Ce qui n'est si pas c'est écrit. 1990.
Ouais. Bon, ben, ça peut pas être... On peut dire ce qu'on veut avec les deux traits d'avant.
Ouais, ça peut pas être 1800, puisque vu le style, non.
Non, mais il pourrait faire référence à...
Ben, 2099,
dans le futur. Bon. Il ou elle, j'ai dit.
Oui.
Pour être référence historique, on va dire.
N'empêche que la façon dont sont faites les lettres, ça fait penser un petit peu à l'alphabet cyrillique aussi. Hein,
mm-hmm.
Avec le dessin, quand l'alphabet cyrillique ressemble un peu à ça, de mm-hmm. façon bien mm-hmm. carré. Donc, mm-hmm. Ce qui tendrait à dire que c'est bien quelqu'un de ces pays-là. Plus.
Et c'est 10 ans après la chute du mur de Berlin.
Oui, mm-hmm. je pense que c'est 89. C'est la taille d'une affiche.
Oui, c'est un peu plus grand. Hein. C'est une œuvre qui, je crois, fait. Ouais, fait... ouais, ouais, c'est toujours 1m50, je crois. C'est un petit peu grand. Ça. Ouais. Bon, en tout cas, si on veut résumer, on a là une œuvre a priori textile sur laquelle serait peut-être peinte hein, cette grosse croix noire sur fond blanc avec cette formule qui sera dedans en 99. Je traduis un peu brutalement. Cette croix vous a fait à la fois penser à ces croix qu'on a déjà vues sur l'œuvre précédente, dans l'œuvre précédente, hein. Et puis cette espèce de goût pour les signes comme ça qui se répètent d'une œuvre à une œuvre. Mais vous a fait penser également à Malevitch, à une œuvre célèbre de Malevitch du début du siècle, du XXe siècle, présentant effectivement un carré noir sur fond blanc. Alors, on n'a pas forcément vu pourquoi il y aurait cette évocation de Malevitch là. Hein. Alors vous avez pensé à Malevitch en regardant ça. Et vous avez dit aussi, bah oui, peut-être que cette croix en même temps, ça peut être autre chose, une évocation mortuaire, ou bien plutôt une évocation d'une voie, d'un avenir, du futur. Je résume à peu près.
Oui,
hein
oui.
Bon. On regarde la suivante.
Oui.
Là, je pense donc je suis.
Voilà.
Je pense donc je suis. C'est toujours le même sujet.
Non, pas
le sujet. Le sujet, ça se situe vers tissu. Cogito ergo.
Il l'a écrit dans la voiture,
hein,
parce que ça tremblait.
Oui, oui. Effectivement, la phrase est écrite de manière tremblotée.
C'est même support.
Hein.
Oui, c'est même support. À l'opposé de l'autre écriture.
Oui, absolument. Là, on a une écriture un peu tremblée, quoi. Alors qu'avant, c'était une écriture très droite, anguleuse. Alors, vous avez reconnu, effectivement, les citations, hein, « Cogito, cogito ». Ergo sum, je pense, donc je suis.
Et dans les trucs d'avant, ils ne pensaient pas, justement, c'était rigide. Mm-hmm.
Là, c'est une espèce de contestation.
Là, une espèce de contestation qui apparaît dans quoi, justement,
surtout dans les paroles, il n'avait pas de pensée.
Je pense, donc je suis. C'est oui. Une, j'existe. Il affirme ça. Hein.
Est-ce que c'est la photo qui donne ça? On a l'impression d'un dégradé de couleur. Légèrement rosé.
Alors, je me pose la question, je ne suis pas certain. J'ai vu plusieurs photos de cette œuvre-là, et c'était souvent plus blanc en bas. Donc, j'ai l'impression que c'est dû à l'atmosphère dans laquelle l'œuvre a été prise en photo. Ouais. Je pense que, dans la réalité, l'œuvre est blanche et noire. Quoi. Non,
alors, faut pas interpréter. Et le carré noir, c'est collé. Enfin, on dirait que c'est un morceau de tissu qui était rajouté sur l'autre. Hein. Parce qu'on a l'impression qu'il est tiré dessus.
Oui, un petit peu.
Alors, il faut voir aussi, parce que ça peut être, vous savez, le tissu lui-même qui tirait, fait que cette partie-là qui est dans le tissu à cette tension-là. Quoi.
Par rapport à la série que vous avez passée, finalement, il se donne le droit de penser, là, et le noir commence à disparaître.
Oui, on ne voit pas une croix complète, il n'y a qu'un carré.
Il n'y a qu'un carré, oui.
Un carré et un opposé.
Oui, un opposé.
Parce que cette partie est noire, alors que... Tout reste blanche.
Et comme il commence seulement à penser, l'écriture est tremblotante parce qu'il n'a pas le
pouvoir penser.
Ou
il
n'ose
pas penser.
Oui, c'est comme s'il sortait d'un tunnel tout doucement, il voit la lumière et il tremble.
Vous verriez donc un lien direct entre la phrase « je pense donc je suis » et cette espèce de trou noir, enfin de carré noir. Ouais.
Mais je pense à la photo qu'on a vue tout à l'heure de l'espèce de personnage un peu fou avec sa couronne, qui avait les seuls yeux qu'il voyait vraiment, qui étaient bien faits, sur la couronne.
Oui.
Et c'est le siège de la pensée, à cet endroit-là.
Oui.
Alors est-ce que ça rejoint le cogito
Donc vous verriez finalement, parce qu'a priori, on a du mal à la voir, donc vous verriez une cohérence entre notre petit roi de tout à l'heure, hein, avec ses yeux qui sont bizarrement placés sur la couronne, mais finalement, la couronne, elle est là où est le cerveau, et c'est le cerveau qui pense, donc qui analyse. Et donc vous verriez là un lien avec cette phrase, « Cogito ergo sum »,« Je pense donc je suis », c'est vraiment la pensée qui permet de vivre, enfin, qui permet d'être, quoi.
Mais il y a un progrès par rapport aux œuvres précédentes.
Oui.
Oui, mais c'est timide.
Qu'est-ce que vous entendez par un progrès par rapport aux œuvres précédentes?
Je ne peux pas dire que c'est plus gai, mais il y a plus d'espoir.
Mmh. Oui, parce qu'il y a déjà plus d'espace.
Là, c'est moins rigide.
C'est plus humain.
Oui.
Puis la phrase est dans la partie claire.
Ouais.
Elle pourrait être dans la partie sombre, c'est pas le cas.
Donc vous verriez finalement une œuvre moins plombante que les précédentes, une œuvre qui n'est pas espèce d'armée de fossiles de marteau qu'on a vu tout à l'heure, envahissante, qui n'est pas espèce de cagoule qui enferme le personnage dans une des œuvres précédemment, qui n'est pas la croix noire qui évoque Malevitch qu'on a vu précédemment.
Mais c'est un petit espoir. Mais c'est timide. Ouais. Est-ce qu'elles sont par date, ces photos?
Oui, je vous ai montré alors, sauf la première œuvre qui est, j'allais dire, hors chronologie, mais autrement, quand on reprend, je vous montre les œuvres par date. Oui.
C'est la raison cartésienne qui domine la folie ou le désespoir.
Voilà, on aurait donc finalement un contraste dans l'œuvre, hein, entre Descartes, hein, je pense, où je suis, et. Le noir qui serait une espèce de trou noir, quoi. Hein? Et donc la raison domine une espèce de vide, hein? C'est ça?
Ouais.
Ouais. Ok. On regarde un peu plus loin.
Oui.
Je regarde moi aussi, oui.
On retrouve le bleu.
Le bleu et le blanc, symétrie.
Oui.
L'œil.
Cousin d'Yves Klein.
On retrouve la symétrie, on trouve le blanc. Techniquement, c'est quoi?
Un tissage.
Non,
pardon?
Un tissage.
Un tissage.
Peint.
Positif.
Peint.
Négatif. Oh, forcément.
Pas peint.
Non, ou tissé, carrément.
Tissé, de la sérigraphie.
C'est tissé au Saint-Désert.
Ah!
Donc là, il y a le blanc et le noir, enfin qui est blanc et bleu.
Blanc et bleu.
Comme la cagoule.
Oui. Ouais.
Mais là, c'est pas muselé, là. Il y a un bec ouvert.
Oui.
Je le regarde.
Et alors, vous y voyez quoi?
Une
sorte de tête d'oiseau.
On voit les quatre points cardinaux.
Mmh.
Ah, ouais,
les quatre points. Ça fait penser à l'opposition des têtes à ce qu'on avait vu avec Marina
Abramovic.
La première, enfin, une des premières images où il se tenait par les cheveux. Là.
Ah oui, oui. Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, oui.
Dos
à
dos. Dos à dos, et qu'il y avait l'opposition de ces têtes.
Donc là, on a finalement quelque chose qui vous fait un peu penser à ce qu'on a vu déjà, c'est-à-dire une opposition noir-blanc, enfin, bleu-blanc, deux formes, deux têtes d'oiseaux dos à dos, mais symétriques. Hein, hein, tout ça sur un support textile, comme on en a déjà vu. Hein.
J'avais des couleurs plus marrantes.
Oui, des couleurs plus marrantes, donc décidément, on est de plus en plus dans des choses légères.
Le bec est ouvert, donc on a l'impression qu'il peut s'exprimer.
Oui,
oui.
Je pensais pareil.
Moi, qu'il soit mort, le bec ouvert.
Oui, d'accord.
Non, il est bien vivant.
Non, je pense qu'effectivement, il peut parler. Puis...
Et là, l'idée, c'est quoi, à part de faire quelque chose d'un peu moins fermé, peut-être.
On a le droit d'ouvrir le bec.
C'est pareil, dans son œil, celui de gauche n'est pas identique à celui de droite.
Si, en inversion. Si, tout est inversé. Ouais.
En positif, négatif.
Oui.
Ah, ouais. Oui, c'est oui. Systématique. Oui,
avec des petits écarts de distance.
Ouais.
Un petit peu,
oui, dans l'autre, il pensait, il commençait déjà à être conscient qu'il avait le droit d'avoir des pensées et non pas la pensée unique. Et là, il peut commencer également à l'exprimer.
Ouais.
Ah, ouais.
Et de deux façons différentes.
Voilà.
Et que ce soit un oiseau, c'est peut-être pas anodin non plus.
Oui, parce qu'il s'envole.
Il s'envole.
Il s'envole.
Donc vous verriez là, décidément, quelque chose qui, après les choses un peu plombantes du départ, nous amène vers quelque chose de plus ouvert, de plus léger, du
plus de liberté.
Ok. Et l'oiseau serait là, justement, pour le suggérer.
Il n'y a que la tête de l'oiseau.
Il n'y a que la tête.
Oui, mais bon.
Oui, c'est pas mal. C'est plus le symbole que la parole.
Ouais.
Oui, mais dans toutes les autres œuvres, il y avait très souvent que la tête. Enfin, c'était vrai.
Ouais.
Ouais. Il cadrait toujours sur la tête, le regard.
Ok. On regarde l'œuvre suivante.
Ah, voilà. Oh, des vraies têtes.
Le portrait. On dirait que c'est le même.
Oui,
c'est du papier.
Donc, deux portraits, mais de la même personne, avec et sans lunettes.
Et avec cheveux courts et cheveux longs.
Non, c'est pas la même personne. Non. Le front n'est pas le même, les sourcils
n'ont
pas
la bouche
n'est
pas la
même. Non,
les sourcils non plus.
Non, les sourcils sont différents. Le cou, c'est au fusain.
Je crois que c'est à l'encre.
À l'encre
de chine. Oh, non, peut-être pas.
C'est
très grossi. Hein.
Ouais.
Non, oui, ou bien, peut-être même avec un crayon feutre un peu épais, vous voyez. C'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ce genre. Pas fumé. Hein. Je crois pas.
Des carrés comptés.
Oui. Donc, vous verrez, alors, finalement, même personnage ou pas?
Non.
Donc, deux personnages, bien. Qu'est-ce qui les réunit, d'ailleurs? Il y a peut-être rien, je ne sais pas.
La technique.
C'est le haut du cheveu qui est un peu pareil.
Oui.
Alors, est-ce qu'à gauche, ça serait une femme?
Oui, parce qu'on dirait
plus à gauche un homme, parce qu'il a les cheveux très courts, avec un visage très féminin, oui. Et inversement sur l'autre.
Ah oui, donc on aura une sorte de d'homme femme à gauche et de femme homme à droite.
Oui, les sourcils, regardez, les sourcils sont épilés, ouais. Maquillés, ouais. Les lèvres sont maquillées.
Mais aussi, il y a une barbe suggérée quand même, voilà.
Ouais. Ouais.
Non, c'est long.
C'est long.
Ah, c'est long, non.
Non, non, il y a
non,
une
non,
barbe.
Si, si, c'est long. Ça peut être l'ombre. Non, ça peut être l'ombre qui, pour donner du volume, il a...
Oui, c'est ça, c'est l'ombre.
Oui, c'est l'ombre, oui. Oui.
Donc, en tout cas, on aurait une sorte d'inversion des oui. Genres, quoi.
Oui, c'est bon,
très à la mode.
Théorie des genres.
Oui.
Ouais.
Donc, un homme fin à gauche, une femme homme à droite, c'est ça?
Oui.
Hein? Oui.
Lunettes et pas lunettes.
Oui. Et l'idée, au-delà de cet élément, c'est l'inversion des genres, ou cette manière de genrer doublement sa figure, si j'ose dire. Hein. C'est quoi, le but, c'est, je ne sais pas, pourquoi? Si c'est ça, hein, pourquoi?
L'ambiguïté.
L'ambiguïté, toujours?
Ah.
Ben, ça rappellerait pas mal des choses qu'on a vues. Hein.
Ouais, ouais.
Hein, depuis le petit roi de tout à l'heure, on n'arrête pas de tourner autour de ça, quand même. Hein.
Ouais.
Donc on est toujours fiers. Donc voilà une œuvre, encore une fois, qui mélange les genres, on va dire, et qui travaille à nouveau cette espèce d'idée de l'ambiguïté, d'une chose et de son contraire en même temps. Hein. C'est ça que vous voyez. Hein.
Oui.
Ouais.
Ok. On a dû prévoir le temps quand même. De... Oui. C'est bon.
Ah.
Cyrano. Le nez de Cyrano.
Cyrano.
Pinocchio.
Ah, Pinocchio.
Pinocchio.
Hitchcock.
Pinocchio plutôt. Hitchcock.
On dirait quoi.
Il a un nez si long, Hitchcock.
Non.
Non.
Alors là, on est devant quoi, techniquement oui, parlant
sculpture.
C'est du bois.
Pardon.
Sculpture sur bois.
Une sculpture.
Non, c'est
une peinture.
Ouais, avec le doigt.
Une peinture au doigt.
Oui.
Hein, une peinture au doigt, une peinture un peu épaisse au doigt.
Ah,
ok.
Oui.
De quelqu'un qui ment.
Oui. Ah, oui.
Mais si c'était une peinture,
ça sont des salons.
Mm-hmm.
C'est quand même. Il y a quand même du relief parce que enfin, la lumière. Les traits,
si
les traits au doigt, il n'y aurait pas ces
impressions
de
d'ombre.
Si
la peinture est épaisse,
oui.
La peinture est épaisse,
parce qu'il y a quand même nettement des reliefs.
Ben oui, c'est une peinture épaisse, effectivement. Donc, d'où c'est presque une peinture sculpture. Quelqu'un disait sculpture tout à l'heure, c'est pas faux. C'est un relief presque. Hein. C'est une peinture épaisse, donc qui donne une espèce de côté matière. Hein.
L'œil, la bouche, tout ça, c'est assez flou. Il n'y a que le nez qui est vraiment prédominant.
Mm-hmm.
Il n'y a pas d'oreille.
Enfin,
une ébauche.
Oui, on l'a suggéré, peut-être.
Ouais, hormis le nez, tous les autres sont suggérés. Quoi.
Mm-hmm. Donc, vous avez pensé à Cyrano, à Pinocchio. Oui. Ouais.
Plus Cyrano que Pinocchio.
Plus Cyrano que Pinocchio.
Non. Bah, si on ça signifie le mensonge.
Oui.
Si on est dans l'histoire du communisme, ça serait plus le mensonge. Ouais.
Mm-hmm. Donc un Pinocchio. Un Pinocchio noir.
Il apporte la mort.
Un personnage qui raconte des carabistes.
Il apporte
la mort.
De toute façon, il était en bois. Et quand on y voit la première impression, moi, ça m'a fait penser à du bois.
Pas
la langue de bois,
c'était
la langue
de bois. C'est la tête de bois.
Donc on aurait une sorte d'image, d'une sorte de Pinocchio noir, sombre, ce qui irait bien avec la face, comment dire, étrange de ce personnage de Pinocchio, qui raconte des tas de choses fausses, hein, et qui a changé, qui n'en finit pas de grandir.
Est-ce qu'il ne dénoncerait pas des choses, des gens avec ce nez qui a l'air de se pointer vers on ne sait quoi.
Ça peut être la critique comme un doigt.
Comme un
Un nez comme un doigt.
Oui, un peu, oui.
Ouais.
Oui.
Donc une sorte de Pinocchio ambigu, une fois de plus.
Oui, toujours.
C'est-à-dire, c'est pas la petite marionnette rigolote que l'on connaît, hein, qui arrive plein d'aventures, mais une sorte de Pinocchio noir, quoi, décidément.
Quand on met le bonhomme avec la couronne et ça, on est servi. Hein.
Mm-hmm. On n'est pas loin, effectivement. En fait, on n'est pas si loin, effectivement.
Ça, c'est le sourire de l'ange.
Un ange.
Passe.
Un sourire.
Alors, qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Alors là, c'est complètement différent. Hein.
Complètement différent.
Ah oui,
c'est du même moteur.
Une sculpture.
Une sculpture en bronze.
En bronze, en tout cas en métal, oui. Il y a du bon, je pense. Oui.
Parce qu'on voit du genre de gris un peu par les pieds.
Ah,
qu'est-ce qui tire dans les mains?
Il a l'aile un peu tronquée quand même.
Ah oui. Ouais. D'ailleurs, même les deux, hein, parce que cette aile-là est visiblement cassée, celle-là, on l'a vu se terminer en pointe, il en manque un morceau.
Il a raté son atterrissage.
Non, on lui a
cassé.
Non, ça veut dire qu'on lui a cassé les ailes.
Donc un ange aux ailes cassées.
Aux ailes cassées, c'est qu'on a voulu lui casser.
Oui,
lui enlever
sa liberté.
Ou une sorte, oui, d'ange dont la liberté est contrainte.
Hein? Oui, comme les oiseaux à qui on coupe les ailes.
Oui.
Pour les empêcher de voler.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il tient dans la main?
Alors, il y en a un, c'est un livre, non?
Alors, il a l'air de tenir dans sa main gauche, ici, quelque chose. Et vous voyez quelque chose là, mais...
C'est quoi, un phylactère, non?
Voilà, c'est ce qu'on appelle un phylactère. C'est que très souvent, les gens enchaînent ce qu'on appelle les phylactères. C'est-à-dire, un phylactère, c'est un volumen, quoi. C'est un rouleau, mais qu'on déroule. Quand c'est une personnalité religieuse, on appelle ça un phylactère. Si c'est un personnage profane, on appelle ça plutôt une banderole. Hein. Voilà. Donc là, il tient effectivement un phylactère. D'une main et de l'autre. C'est-à-dire que là, vous avez le début du phylactère. Le phylactère, il fait ça, 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 ça. Donc, il tient un phylactère. D'accord ?
Voilà. Il n'y a pas d'inscription dessus ?
Non.
Sur le phylactère, non. En général, il y en a, vous avez raison. Mais là, c'est fait pour ça, d'ailleurs. Mais là, non.
Mais non, parce qu'il n'y a plus de message, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'espoir.
Donc, c'est un ange désespéré.
À qui on a coupé les ailes.
À qui on a coupé les ailes.
Mais qui est toujours là, quand même.
C'est l'ange de l'annonciation qui n'a plus rien à annoncer.
quel lien vous voyez entre cette œuvre-là et les autres, d'ailleurs? Comme vous avez dit tout de suite, c'est complètement différent. Moi, c'est ce qui me frappe aussi, c'est complètement différent.
Moins triste.
C'est moins lugubre.
Moins lugubre. Ah, tout le monde n'est pas d'accord dans le moins lugubre.
Bah, a priori, c'est moins lugubre parce que, enfin bon, puis ça a une référence quand même religieuse, alors que les autres c'était très athée, comme
ça. Oui.
Bah oui, justement, parce que
extérieur.
Non, mais justement, pendant pendant le gouvernement communiste, de toute façon, la religion était complètement interdite. Ouais. Et après la chute du mur, après la perestroïka, au contraire, la religion a commencé à nouveau à revenir, malgré toutes les vicissitudes. Alors, ça peut-être ce symbole-là.
Donc une sorte de retour de la religion.
Oui.
La religion revient.
Un peu cassé.
Un peu cabossé. Un peu cassé. Ouais. Mais elle revient.
Elle est postérieure aux autres, cette œuvre.
Elle est postérieure aux autres, oui, puisque je les ai mises dans l'ordre. Voilà, celle-là, donc, est plus récente que les œuvres d'avant.
Et sur le socle, il y a un texte.
Ah, il y a un texte sur le socle, effectivement. Il y a un grand texte sur le socle. Alors, vous aurez du mal à le lire, et moi aussi, d'ailleurs. Mais bon, ça vous suggère quoi le fait qu'il y ait un texte sur le sol d'ailleurs, le sol, même si vous savez pas.
L'explication.
Pardon.
L'explication.
Ouais.
Ou ça remplace une œuvre qui était là avant.
Alors ça pourrait être ça. Il y a peut-être aussi une autre solution.
Une dédicace.
Une dédicace.
Ou une œuvre qui a été trouvée après les événements.
Alors une œuvre trouvée après les événements, bien vous disiez.
Un mémorial.
Ou un mémorial. C'est peut-être un meilleur, ça a un côté monument à quelque chose, oui. Et puis vous parliez également d'une œuvre peut-être retrouvée.
Après des bombardements, ou après.
D'où le fait qu'elles soient cassées.
Voilà.
Oh, bah, elle ne serait pas cassée comme ça, là. On dirait qu'elle est cassée vraiment exprès, quoi.
Oui, surtout que tout le corps de l'ange, il n'est pas du tout cassé.
Ben bah, oui. Mmh. Non, c'est volontaire, ça.
Bien. On continue.
On dirait des dominos.
On dirait des dominos.
Il y a un peu de travers. Le 6 est de travers.
Oui.
Ils sont de travers, ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas la même taille.
Oui. Donc on a là des ronds sur un fond blanc, les ronds sont noirs, tout ça n'est pas ni régulier ni de la même taille.
Mmh. Ni mais ça très... évoque du régulier.
Mais ça évoque le régulier sans en être. Décidément, hein. Tartis qui ne sait pas couper les photos bien, qui... Oui, c'est toujours... c'est jamais tout à fait droit. Voilà, les langes, elles sont cassées. Mais dès le départ, rappelez-vous la photo, oui. C'était mal coupé en bas, le papier était plomb, ouais. Vaguement... voilà, c'est... Il y a ce côté-là. Hein.
Et c'est,
oui,
c'est une peinture. Hein.
C'est une peinture, donc, hein, des ronds noirs sur fond blanc. Bon, c'est grand. Ah, ouais.
Un peu comme celle où il y avait la croix noire.
Mmh. Ok. Et alors, l'idée, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée-là ?
C'est des résidus de totalitarisme.
C'est-à-dire ?
C'est des pions.
Par rapport à tout à l'heure, bon, il y en a un peu moins, mais il y en a encore un.
Ah.
Plus il y a de points, moins, plus ils sont petits.
Oui.
Ouais.
Oui.
Les deux, puis quatre, puis six.
Oui. Ouais. Oui, oui. Les deux sont plus gros que les quatre qui sont moins gros que les six qui sont plus petits. Oui.
Il y a une progression arithmétique.
Mmh. Ok. Oui. Allez, on va suivre pour qu'on ait quand même le temps d'en discuter. Voilà quoi. Ce que j'entends bien, voilà.
Une photo de gens qui photographient.
Mmh. Et qui interviewent à droite.
Oui, il y a une interview.
L'interview des gens. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et puis les héros, ce sont des cochons.
Les héros sont des cochons.
Est-ce que ce sont des vrais?
Je ne sais pas, celui de droite, il est bizarre.
Mais non, parce qu'il bouge, parce qu'il bouge, il y a les oreilles qui
reviennent. Ah, d'accord.
Et puis comme il bouge avec le mouvement.
Il doit être des vivants.
Donc c'est des vrais cochons.
Ah, oui.
Donc une photo qui nous montre des vrais cochons avec des gens.
Qui les photographie.
Qui les photographie.
Enfin, je ne suis pas sûr qu'ils soient vivants, parce que des cochons, ça s'approche des gens aussi.
Non, ça s'approche
pas. Si.
J'ai une certaine expérience.
Oui, donc, c'est ils sont pas.
C'est même une truie. Il
y a une dame à gauche, oui.
À gauche,
il
y a une dame.
À droite, il y a des chances. Je crois que ça se verrait autrement.
Et les plus maigres, à droite.
Oui. Ah, ben, il y a des cochons plus gras, des cochons plus maigres.
On trouve les points noirs.
Oui, oui, oui.
C'est vrai.
Là aussi, oui, la photo, elle n'a pas été étudiée.
Bon, et alors là, l'idée, c'est quoi ?
C'est une performance.
Pardon ?
C'est une performance.
Ah, je suis d'accord. J'en ai deux, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai deux cochons. Enfin, deux truies, précisément.
Dans mon état.
Entre autres choses. Autres animaux.
Alors là, il y a des yeux. Ouais. Avec leurs
ah, de nouveau, on retombe alors sur les yeux qui scrutent, qui regardent les objectifs.
Oui, mais c'est des gens ils interrogent, donc il y a l'oreille, les sens,
les spectateurs qui sont.
Ils n'ont jamais vu. Visiblement, vu les photos qu'ils prennent, n'ont jamais vu de cochons de leur vie. Hein. Ils ont l'air, waouh, fascinés de voir des cochons. Hein. Ils en mangent tous les jours, ils ne savent pas ce que c'est.
Clair, manifestement, il y en a d'autres
Au fond. Oui, on en voit d'autres derrière, oui.
Mais c'est quoi, c'est une ferme, ça ?
C'est une ferme ?
Une ferme pédagogique.
C'est une question.
Non, mais on peut se demander. Hein.
Ouais, ça n'a pas trop la tête.
Ça ne fait pas trop ferme.
Ça ne fait pas trop ferme.
On avait plutôt garage, oui.
Ils ont peut-être eu des prix pour qu'ils soient photographiés. Ils ont reçu des prix, ces cochons.
Peut-être.
Les plus beaux cochons.
Oui, des cochons primés. Mmh.
Ressenti pour être décrochant de première.
Et donc, l'idée qu'il y a derrière, parce que moi, j'essaie de trouver un peu un lien avec ce qu'on a vu, hein, par exemple l'ange d'avant, la cagoule de tout à l'heure, voilà, les ronds noirs sur fond blanc d'il y a un instant.
Bah, la, liberté vous auriez, arrive, la liberté qui arrive même à photographier des cochons alors qu'avant c'était impossible. Bah si, parce que c'est.
Oui, on y peut y retourner, on peut dire que même les cochons ils sont surveillés parce que. On a trois en train de photographier avec des objectifs.
Nous aussi, on prend en photo pour les vaches, les touches, des choses comme ça.
Mais avec les dominos.
Avec la foire agricole à Paris ou tout ça. Non, moi je pense que c'est au contraire, c'est un symbole de liberté. On peut se permettre des choses, comment dire, légères.
Mais c'est l'esprit de consommation.
Oui, mais tu veux léger.
Ce sont peut-être des photographes qui travaillent pour la publicité.
Ah, peut-être. Bon, on va regarder l'œuvre d'après, ça va sûrement nous en dire davantage. Hein.
Sûrement.
Ça, c'est le reste du cochon.
Ben voilà.
C'est avant, après.
La promotion de...
Ah voilà, donc avant, on avait une œuvre promotionnelle de ça. Parce que ça, c'est quoi, ça?
C'est en plastique.
Du plâtre peint. Du plâtre peint.
Oui, oui.
Avec des bandes, avec des...
Ben, ça fait un rôti bien ficelé. Hein.
Un rôti ficelé. Oh, non, il est plat, votre rôti.
Il est plat. Hein. Et il est toujours bien irrégulier, le rôti. Hein.
Oui.
Il n'est pas du tout...
Donc, une sorte de d'évocation en plâtre peint d'un... D'une pièce de viande, c'est ça que vous voulez ?
Oui.
Oh, non.
Je ne sais pas ce que vous disiez. Non, c'est n'importe quoi. C'est un peu... C'est une forme.
Non, mais le problème, c'est vous qui influez, vous influencez, parce que vous montrez des cochons, il y a plein de trucs.
Ah.
La première image, quand même, quand on voit, c'est de penser à un morceau de viande.
Hein. Eh oui. Non.
Ah si, quand ça arrive sur l'écran,
ça arrive sur l'écran, ça peut présenter du sang.
On va dire qu'après la première impression que vous avez eue, qui est de dire on a là une escalope ou je sais pas quoi, enfin, hein, la deuxième impression, c'est d'avoir une forme colorée, plâtreuse, et que je prends des expressions, qui est entre guillemets n'importe quoi. C'est-à-dire c'est simplement une forme colorée.
Oui, mais quand même, il y a un axe vertical, il y a des transversales.
Oui.
Mais c'est strié aussi.
Voilà, elle est quand même structurée, cette fois.
Du rouge,
c'est
pas. Rouge,
c'est un
verre.
Mais c'est la première fois qu'on voit du rouge, à part la photo.
Oui.
Oui,
c'est vrai. C'est vrai. On a eu le drapeau et...
Oui, c'est le
marteau et la fossile.
Ah, là, on retrouve
la chaîne. Oh là là, on retrouve à nouveau comme le roi, la
liberté.
Oui.
La chaîne.
La chaîne.
Et puis la
moiselle.
Mais il a rompu la chaîne.
Il a rompu les chaînes.
Les chaînes sont rompues.
Ouais. On dirait un négatif qui a été...
Et le fantôme est remplacé par une jolie fille.
Ouais. C'est-à-dire on a un peu un fantôme au centre. Hein.
Oui, oui, il est remplacé par une jolie fille.
Non, il y a les deux.
Oui, mais il y a une progression, tu vois. La photo de la jeune femme est beaucoup plus importante que la photo de l'autre. Et l'autre, il est coincé.
C'est un peu ambigu. Une femme.
C'est encore bien ambigu, oui.
À nouveau.
Oui.
De quoi l'absolu ?
Ça peut être un homme maquillé.
Oui, mais le regard est vide.
C'est Strom.
C'est
Strom, le chanteur, vous savez.
Oui, Stromae.
Stromae, pardon.
On n'a pas dit ce que c'était.
Mais ça n'a plus que ça.
Matériellement.
Oui. C'est quoi ?
Un collage.
Donc on retombe un peu sur ce qu'on a vu au départ. Hein. Bon, on regarde la dernière œuvre. Je vais un petit peu plus vite parce que...
Plusieurs pas. Ah, voilà, à nouveau les lignes blanches et rouges. Plus du bleu et du jaune. Du jaune bleu, du jaune et du noir.
Mais il n'y a plus de marteau et tout aussi. C'est non. Disparu. Donc, c'est bien.
Et ça, c'est fait en quoi, ça ?
Tissu.
Tissu.
Sur le côté, oui.
C'est le multipartisme, là.
Le multipartisme. Donc, ça vous fait penser encore à un drapeau, ça ?
Ouais, un peu.
Non.
Non. C'est un peu patchwork simplifié.
Il a rajouté des lignes jaunes plus fines,
et
moins régulières, donc sa nidification.
C'est en deux parties, en fait.
Oui, on a l'impression deux éléments rajoutés l'un à l'autre. Hein.
On se donne le droit de voir d'autres couleurs. Oui. Et il y a quand même du noir qui revient.
Oui, noir ou bleu foncé.
C'est bleu foncé.
Alors, ça, c'est la dernière œuvre que je voulais vous montrer.
C'est divisé en deux.
Il y a plus d'états. Avant, il n'y avait qu'un seul état, mais là, il y en a plus. Si, par exemple, on prend l'URSS, c'était un seul état, c'était l'URSS, le nom des républiques. Et là, chaque république peut être différente, ou même l'ex-Yougoslavie.
Ouais, c'est vrai.
Et chaque trait peut représenter une individualité.
En tout cas, vous verriez derrière ça, là aussi, une évocation géopolitique, on va dire. Hein, une sorte de drapeau. Puisqu'on arrive là à la dernière heure, et qu'on va maintenant ramasser les copies, si vous aviez à résumer un peu l'œuvre de cet artiste, homme ou femme d'ailleurs ?
Homme,
dont nous avons parlé, dont nous avons vu l'œuvre, qu'est-ce que vous en diriez ?
Qui a vécu peut-être dans un pays de
l'Est. Donc peut-être un artiste originaire d'un pays de l'Est. Quelqu'un qui est marqué par ces questions-là.
Et qui, à travers son œuvre, essaye de lutter contre le totalitarisme.
Voilà, contestataire.
Et c'est de lutter, donc, qui, dans son œuvre, dénonce finalement ces éléments-là. Ouais. Dénonce une sorte de rectitude, de normalité, c'est ça que vous verriez ?
De manque de liberté, d'oppression.
Un régime de dictature.
Donc finalement, c'est une œuvre qui serait là pour dénoncer. La dictature, l'oppression, c'est-à-dire les cases, enfin, c'est ça que je veux dire.
Mais est-ce quand même, dans les dernières œuvres, des portes ouvertes
Oui, où est-ce que vous envoyez des portes un peu ouvertes ou autre chose
dans
quelle œuvre, par exemple ?
Les photographes.
Oui.
Et puis l'œuvre où il n'y a qu'un carré noir.
Oui.
Et puis, voilà.
Et cogito.
Oui, mais on ne voit ça que parce qu'on voit la succession.
Ouais.
Parce qu'en individuel, on ne verra pas la
succession. Sûrement pas. Non.
Au niveau des matériaux, il y a des choses qui vous apparaissent là, pour essayer de résumer cette œuvre, au niveau de la manière de faire des médias.
Abordable financièrement.
Oui.
Des matières de base.
Des papiers, des bouts de photos.
Sauf l'ange.
Ok.
C'est pas ça du tout.
C'est ce qu'il nous dit.
Vous allez voir. Alors, la première œuvre que je vous ai montrée, c'est celle-ci. C'est donc une œuvre qui date de 2008, en fait, qui est assez tardive, mais qui a un côté vintage. Donc, moi aussi, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, voilà une œuvre des 1980, donc de Bol, c'est 2008. C'est assez récent. Ce que vous n'avez pas vu là, en fait, c'est que le personnage qui est au centre, c'est un visage que vous connaissez. Sauf qu'il a ses yeux déglingués, si j'ose dire. C'est Francis Bacon.
D'où l'avion de Citron.
Vous avez la tête de Francis Bacon. J'aurais dû vous amener une photo de Francis Bacon. Vous n'avez pas le visage Francis Bacon en tête ? C'est lui. C'est lui. Donc celui que vous voyez là, c'est Francis Bacon. Et alors évidemment, Francis Bacon, si vous voulez, c'est un peu une des gloires de la peinture du XXe siècle. Enfin, il y en a d'autres. Enfin, la deuxième moitié du XXe siècle, Bacon est quand même un peu universellement un artiste. Bon. Effectivement, l'idée là, c'est d'en faire à la fois une sorte de visionnaire absolu. C'est-à-dire ce cyclope démiurge qui est là, puis en même temps l'inverse, c'est-à-dire de le réutiliser, d'en faire cette espèce de marionnette que vous suggériez. Donc on est là effectivement dans une œuvre qui à la fois prend en compte la célébrité, la notoriété universelle hein, d'un des plus grands peintres du XXe siècle, voilà, et d'un autre côté, qui déglingue le personnage pour en faire une sorte de marionnette un peu ridicule, voire totalitaire, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui voit tout, qui regarde tout, et qui en même temps est réduit à l'idée d'une marionnette. C'est une œuvre qui évoque ces deux choses-là. Et tout ça avec ce que vous aviez bien dit, c'est-à-dire un fer un peu dérisoire. Hein. On n'est pas là, même si c'est pas mal organisé, mais enfin, c'est pas non plus une subtilité inouïe. On est là dans des bouts de photos collassés, tissus, enfin, tout ça est fait avec des bouts de ficelle. Quoi. Enfin, vous voyez, il n'y a pas un fer absolument extraordinaire. Quoi. Alors, autrement, si on reprend les œuvres, il y a d'abord ça, qui s'appelle Sans titre. Alors, avec ça, on est là. Quelquefois, cette œuvre est quand même surtitrée, si j'ose dire, ou sous-titrée, Le Petit Roi. C'est une œuvre assez tôt, hein, 85. On est donc là au début de la carrière de cet artiste. Hein. On est donc là encore dans un travail assez, je vais presque dire, encore assez académique. Hein. C'est-à-dire, c'est un peintre qui fait de la peinture, voilà. Il n'y a pas trop de problèmes. Je crois que vous avez autrement bien vu quand même les problèmes qu'il y avait. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit, mais on est devant un fou qui, en même temps, n'est peut-être pas si fou que ça, parce qu'il est peut-être celui qui domine le monde. Enfin, je crois que vous avez bien montré le caractère un peu curieux, dual de cette figure, à la fois un fou, puis l'inverse, quoi. On est là devant, je crois que c'est la première autour de laquelle on a souligné une espèce d'ambiguïté, de caractère un peu double, finalement. Alors, après, on a vu cette œuvre-là. Vous voyez, toujours Untitled, hein, 86. C'est une œuvre, effectivement, sur tissu. On a vu beaucoup d'œuvres sur tissu. C'est donc pas des pixels sur papier. C'est bien une œuvre sur tissu, et c'est du tissu tissé. C'est-à-dire qu'en fait, ça, vous aviez pas tort quand vous parliez de trucs informatiques imprimés. En fait, c'est un programme informatique qui fait ça. Hein, c'est-à-dire vous avez un tissu tissé, c'est pas fait au tampon, c'est pas une indienne, si vous voulez, c'est pas imprimé, c'est pas peint, c'est pas brodé, c'est voilà, par des cartes informatiques, vous faites un tissu comme ça. Hein. Et alors vous avez bien vu, tout ce que vous pouviez dire était assez juste, hein, autour de évidemment l'idée d'un communisme étouffant, etc. Mais l'idée aussi était de faire de ce signe, qui est la fosse qui est le marteau, qui est devenu pour nous une sorte de signe, comment vous dire, évident. Enfin, quand on voit un fusil marteau, on pense tout de suite à quelque chose. Hein, d'en faire là une sorte de motif de papier peint, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est là toujours dans une espèce de double lecture. Quelque chose, qu'est-ce que vous disiez,
sur cauchemar, oui.
Voilà, sur fond de drapeau. Oh, je connais des papiers peints des années 70 qui sont assez cauchemardesques aussi, hein, avec des grosses feuilles psychédéliques dans le genre à faire fermer les yeux, c'est pas mal non plus. Mais voilà, donc on est un peu dans quelque chose qui à la fois évoque une sorte de question politique. Vous avez bien vu ce côté drapeau américain et puis fossile et marteau soviétique, hein, espèce d'antithétisme. Et en même temps, cette espèce de totalitarisme qui est évoqué par cette foule qui a l'air d'une armée rouge en marche, hein. Et puis en même temps, devant quelque chose qui devient presque plus un motif de pullover ou de papier peint, je ne sais pas quoi, tellement il est répétitif, et tellement ce motif devient, par sa répétition même, un peu anodin. Voilà encore un code cassé, si vous voulez. Pardon ?
Je vois le gars avec sur une piste de ski avec ça.
Oui, pourquoi pas. Mais je crois que, au bout d'un moment, si vous voulez, l'idée est aussi de voir comment le motif viendrait presque anodin par sa répétition, oui. Et par le fait qu'il est tellement fréquent qu'il se neutralise lui-même, d'une certaine manière. Hein. Alors voilà, ça je ne voulais pas montrer, mais voilà une autre œuvre, un peu du même genre, hein, où là, c'est un peu la même chose, vous voyez, le motif du crâne devient pourtant un motif fort, hein, devient par sa répétition une sorte de motif qui devient presque un truc pour un châle, vous voyez. Vous savez, aujourd'hui, regardez la rue, il y a des gosses qui ont des crânes sur le bide. Si eux, ils n'y voient aucun problème, ça devient complètement neutre, si vous voulez. Hein. C'est un peu la même idée, là. Toujours avec, vous voyez, cette technique du textile. Technique du textile qui est importante parce que, si vous voulez, le textile n'est pas considéré comme un élément de l'art avec un grand A. Si vous voulez, le textile, c'est pour les arts décoratifs. Pour les arts, mais décoratifs. Pas pour les arts tout court. Hein. J'allais dire, pour le textile, c'est un truc de bonne femme, si vous voulez. Hein. C'est un truc qu'on fait, le textile, c'est avec des aiguilles, puis voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi une volonté chez cet artiste de montrer comment il y a une manière de réévaluer certains domaines de l'art. Si vous voulez pas dire, il y a ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas parce que c'est du textile que c'est un art qui est uniquement décoratif, etc. Le textile peut être un art à part entière, vous voyez. Il y a cet élément-là est très revendiqué par cet artiste. Alors là, ben, vous aviez bien vu, sauf que l'œuvre d'art, ce n'est pas une photo qui représente des personnages. L'œuvre d'art, c'est la cagoule. D'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas montré, mais un dessin, l'artiste en question fait des espèces de kits de cagoule. Vous pouvez acheter 5 cagoules, hein, de cet artiste, comme ça. Donc là, il se trouve qu'on l'a mis sur quelqu'un, si vous voulez, mais l'œuvre d'art, c'est pas une photo qui représente quelqu'un avec une cagoule. C'est la cagoule, l'œuvre d'art. Alors, elle est d'autant plus œuvre d'art qu'elle est mise en VIP quand elle est portée, vous voyez. Et vous aviez bien vu deux choses. Un, le fait que c'est très enfermant. Vous me direz, aujourd'hui, on est assez enfermé tous les jours, hein, mais voilà, très assez enfermant, on voit que les yeux. Et puis vous aviez remarqué également ce côté signe, hein, qui nous rappelait nos fossiles et marteaux d'avant. Hein. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à la croix rouge, mais en bleu. Donc encore une espèce de démontage des signes. Vous savez, on est plein de logos, nous. Hein. On est sur la route, on a des logos. On ouvre notre frigidaire, il y a des logos. On ouvre notre ordinateur, n'en parlons pas. Il y a des logos partout. Eh bien, l'idée, c'est aussi, à partir de ces logos, d'en faire autre chose, tellement de les utiliser pour qu'ils soient démonétisés d'une certaine manière, qu'ils perdent de leur sens, de leur sens. D'ailleurs, dans le même genre d'idée, ce même artiste a fait, par exemple, ce couleuvreur à deux têtes. Voilà, excusez-moi, couleuvreur. Alors, ça, vous l'aviez bien vu. C'est en effet, la partie basse est effectivement une citation de Malevitch, hein, la fameuse croix noire sur fond blanc. Je crois que vous aviez bien vu. Hein. C'est un peu la même chose finalement que le collage du départ, c'est-à-dire il y a un côté chez cet artiste déboulonnage des idoles. Hein. Tout comme Bacon, c'est un peu l'un des dieux de la deuxième moitié du XXe siècle en termes de peinture, hein. Malevitch est un peu un des dieux de la première moitié du XXe siècle. Je veux dire que voilà, Malevitch, Bacon, même combat. C'est des peintres complètement différents, mais c'est deux grands peintres fondamentaux, essentiels, etc. Bien, on ne revient pas là-dessus. Ben, si, justement. C'est-à-dire que l'idée est aussi de dire, bon, Malevitch, ok, mais il y a peut-être d'autres choses, quoi. Hein. Et donc, c'est un peu, d'ailleurs, le sens de la phrase, hein, qui sera là, c'est-à-dire présenté comme Malevitch, un des icônes du XXIe siècle, en 99, vous voyez. Est-ce que, en gros, c'est vraiment un autre artiste, vous voyez. Donc on est un peu là, et toujours avec cette idée, effectivement, vous aviez remarqué aussi, de croix, hein, c'est-à-dire, il y a cette espèce de travail sur les signes. Là, il se trouve qu'en plus, Malevitch, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé les signes, donc ça ne pouvait pas ne pas intéresser l'artiste en question. Et d'ailleurs, on retrouve un peu la même chose dans le Cogito ergo sum, vous avez bien vu, parce que, en fait, le carré noir que vous avez en bas à droite, c'est aussi une citation de Malevitch. Vous savez, Malevitch a fait un tableau qui s'appelle « Le carré noir sur fond noir hein, », et bien aussi un carré blanc sur fond blanc. Donc vous connaissez ces œuvres-là. Là, c'est un peu la même chose. C'est une œuvre, d'ailleurs, qu'on met souvent à côté de la précédente. Hein. On a donc là, finalement, deux figures importantes, un peu inattaquables, Descartes, Malevitch, deux dieux de, on va dire, la pensée, l'art occidental, qui sont là, en une seule œuvre. Et qui sont à la fois célébrés, mais peut-être aussi remis en cause, si vous voulez. Alors là, vous aviez bien vu, sauf un truc, hein, c'est que ce motif hein, qui représente une sorte de canard, si vous le regardez d'une autre manière, vous y voyez un lapin. Notamment si vous le...
Ah oui,
Voilà. Et en fait, ce motif-là est un motif qui est utilisé dans les techniques cognitives pour essayer de reconnaître un lapin ou un canard. Hein. Et à vrai dire, il y a des moments où on ne sait plus lesquels on doit voir. Vous savez, donc c'est une espèce d'illusion du regard. Et je trouve que c'est une œuvre très intéressante. C'est peut-être une des œuvres les plus, plus évidentes, je trouve. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, justement, travaille bien ce fait de la double lecture. Tout à l'heure, quand on voyait des fusils et des marteaux, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait des fusils et des marteaux, l'URSS, le socialisme soviétique, etc. Ou bien on voyait un motif qui, comme sur un jacquard, est répétitif et crée un motif. Hein. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on voit un oiseau ou un mammifère, hein? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est blanc ou bleu? Enfin, vous voyez, il y a une sorte de radicalité dans la manière de dire ça, et qui montre bien une espèce de démontage des codes qui sont les nôtres. Finalement, l'artiste qui est là est un artiste qui travaille beaucoup là-dessus, sur les codes. On est bourré de codes, de tous les côtés, sans s'en rendre compte. On les ingurgite absolument, tout le temps. Et l'artiste en question est quelqu'un qui essaie, sur les codes que l'on a, les logos, les petites croix, les fossiles, les marteaux, les Malevich, les Bacon qu'on se donne comme Dieu, est-ce que ces codes-là, il ne faut pas les remettre en cause, les retravailler en permanence? C'est un peu ça l'idée qui est développée chez cet artiste. Et qui est développée là aussi, vous aviez bien vu, parce que vous avez deux monstres ici. Cette œuvre, elle s'appelle Bébé, Muter, Courage. Bébé, ça dit quelque chose?
Brigitte Bardot.
Elle ressemble, effectivement.
Ce que vous avez là, c'est le bas du visage de Brigitte Bardot. Et ce que vous avez là, c'est un autre bébé, c'est qui? Bertolt Brecht.
Ah,
eh bien, si vous... Voilà, exactement, Mère Courage. Donc si vous enlevez, si vous mettez ça là, vous avez Brigitte Bardot, si vous enlevez ça et que vous mettez là, vous avez Bertolt Brecht. Donc il y a une sorte de jeu humoristique, hein, sur deux bébés célèbres, hein, une sorte d'icône des pin-up des années 60, hein, et d'icônes du théâtre engagé de l'entre-deux-guerres. Ils sont là mis en parallèle, alors qu'évidemment, ils sont quand même un peu différents, hein, même sur le plan politique, c'est pas tout à fait pareil. En plus, il y a un homme ou une femme, etc. Oui, oui. Ça donne donc deux espèces de figures absolument monstrueuses. Et, encore une fois, une remise en cause des codes. Hein. L'artiste engagé, etc. La pin-up irrésistible. Voilà deux figures absolument monolithiques, si vous voulez, qui sont mixées. Hein. Donc toujours, c'est question de la remise en cause des codes. Et c'était pareil avec le Pinocchio, vous l'avez bien vu. Hein. C'est-à-dire que cette espèce de charmante marionnette un peu facétieuse et mutine, mais rattrapée par son nez qui. Et devient là une sorte de sombre monstre d'une certaine manière. Il en a fait plusieurs, cet artiste. Hein. Voilà un autre, par exemple. Mais vous le montrez. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est une œuvre très ambiguë aussi. Vous l'avez bien vu, c'est un monument, c'est une commande publique, hein, qui a été commandée. Alors, c'est une grande ville qui a été commandée par la ville de Francfort, hein, voilà, d'où son nom, l'ange de Francfort. En fait, c'est un monument qui a été commandé en 1994 par la ville de Francfort pour célébrer l'autre victime des nazis, qui sont les homosexuels. Vous savez que, bon, évidemment, les nazis n'en sont pas une victime, si j'ose dire, hein, mais un des domaines dans lequel ils ont aussi beaucoup sévi, moins que dans d'autres, hein, mais quand même, c'est les homosexuels. Et la ville de Francfort a donc décidé de faire un monument là-dessus, homosexuel aussi bien masculin que féminin, d'ailleurs, hein, et c'est donc l'objet de ce monument. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, visiblement, l'artiste reprend ici une figure d'ange. Alors, j'ai pourtant cherché, j'ai pas réussi à trouver. Moi, alors, ce qui est clair, c'est que l'ange qui est repris ici est repris d'après une sculpture, d'ailleurs, pas gothique, mais néo-gothique. Hein. Et vous avez là un ange qui, vraiment, manifestement, hein, évoque le Moyen-Âge. Mais non pas le Moyen-Âge revu par le 19e siècle. Et je pense que vous l'avez remarqué, car les ailes sont cassées, ce qui est évidemment une évocation poétique du monument lui-même, si vous voulez, enfin, de l'objet du monument. Je pense que soit c'est d'une volonté de l'artiste d'avoir cassé les ailes, soit c'est effectivement la reprise d'un ange cassé, d'un vrai ange néoclassique vraiment cassé par la guerre. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà.
Et j'ai pas réussi à le trouver. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que c'est une œuvre, il y en a eu beaucoup, hein, néo-gothique, dont les ailes ont été cassées, peut-être, dans les bombardements, que sais-je encore. Dieu sait que l'Allemagne a été bombardée, enfin voilà, pas que l'Allemagne. Voilà, donc, en tout cas, voilà l'idée. Donc, c'est un ready-made, d'une certaine manière. L'artiste a pris cette sculpture, l'a moulée, l'a mis sur ce monument, hein, et donc à recopier sur cette sculpture pour en faire ce monument-là.
Une sorte de... Quel matériau ?
Bronze, bel et bien. Ouais. C'est une appropriation de cette œuvre. Alors là aussi, il y en a une autre qui est... C'est marrant. Là, je vous ai volontairement aujourd'hui laissé beaucoup parler parce que ça m'intéressait de voir. En fait, ce que vous voyez là, c'est assez grand. Hein. Ça s'appelle toujours un title, sans titre. Mais en fait, il s'agit de plaques de four d'induction.
Ah, quoi ? Ah, oui.
Vous savez, on a chez nous des plaques circulaires dans nos cuisines. Oui. Genre, on met le truc, ça devient chaud, etc. C'est ça. Voilà. Parce que l'artiste en question est un artiste qui veut, dont on a vu que c'est un artiste qui dénonçait pas mal de choses. Hein. Les régimes totalitaires, par exemple. Hein. Il y a aussi cette volonté en permanence de casser les codes, vous l'avez remarqué, on l'a dit dès le départ. Hein. L'idée, c'est de remettre en cause les codes de la société qui font qu'il faut penser d'une manière et pas d'une autre. Eh bien, là, c'est la même chose par rapport à cette question-là. C'est-à-dire que voilà un artiste qui, en faisant de ces trucs qu'on a donnés dans la cuisine pour faire chauffer notre eau le matin, hein, les met verticalement sur un panneau, et en fait, une espèce de pseudo-œuvre minimale. Vous savez, dans les années 60, 70, 80, le grand art, en fait, c'était l'art minimal. C'est-à-dire qu'il y avait une étoile blanche avec un point au milieu, ou bien quatre, ou bien que sais-je encore. Donc là, l'artiste fait une sorte de parodie d'une œuvre minimale. Hein. Alors il y a 2, 4, 6, mais comme vous avez remarqué, c'est un peu mal fait. Hein. C'est un peu pas très droit. Donc c'est une sorte d'artiste minimaliste foireux, vous voyez, hein, qui fait quelque chose là. Et en plus, avec des plaques à induction. Évidemment, une manière inverse d'anoblir, en quelque sorte, cette espèce de caractère très basique qui est celui de la cuisine, vous voyez ce que je veux dire. Qui, d'ailleurs, est souvent une activité forcément féminine, si j'ose dire. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de casser les codes, hein, de faire de la cuisine quelque chose d'artistique à travers une pseudo-œuvre minimaliste, hein, et de, j'allais dire, de valoriser, un peu comme avec le tricot, vous savez, tout à l'heure, hein, ces éléments qui ne sont jamais, hein, et les gens qu'il y a derrière, d'une certaine manière. Ça, en fait, c'est pareil, ça n'est pas du tout la photo qui est une œuvre. Ce qui est l'œuvre, c'est l'installation en question, plutôt la performance, car ça, c'est une performance. Vous voyez que cet artiste, décidément, est un artiste assez curieux qui va dans tous les sens. Hein. C'est un artiste multidirectionnel. Hein. On a vu des sculptures, on a vu des peintures, on a vu des collages, on a vu des photos, on a tout vu. On a vu des tissages, voilà. C'est vraiment un artiste qui va dans tous les sens et qui fait des performances. La performance, c'était de créer une maison pour des gens et des cochons. Hein, faisant rencontrer deux lieux qui ne se rencontrent plus. Hein, et ça, c'est d'ailleurs tout à fait vrai. Hein. Aujourd'hui, on rencontre plus les animaux, on les bouffe, on ne les rencontre pas. Hein. Et bien, voilà. Donc, l'idée était, ça nous paraît anodin ou pas anodin du tout. Les gens ne savent plus ce que c'est qu'un cochon. De toute façon, on dit plus une chèvre ou un âne. Hein. Et donc, voilà, l'idée était justement de reconstituer ça. Et d'ailleurs, ça a fonctionné. Regardez comment les gens font des photos en tous les sens. Maintenant, les gens font des photos de tout. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait plus rien. Donc c'est une espèce de manière de nous interroger, là aussi, sur les codes qui sont les nôtres. C'est finalement, ça semble très différent, mais finalement, c'est très semblable. Et cette chose bizarre que vous voyez là, c'est une volonté de cet artiste de faire des... J'allais dire de faire des trucs. C'est-à-dire de faire des œuvres qui sont... vous l'avez dit, qui ressemblent à rien. D'ailleurs, on en a fait d'autres. Il y a ça... Mais je vais vous en montrer deux autres. Hein. Il y a ça, voilà, qui sont en fait des œuvres en céramique. Ce que vous avez là, en fait, techniquement, c'est assez fortiche. C'est de la céramique, de la suvraie. C'est donc des œuvres en céramique, mais dont le but est que ça ne soit rien. C'est des espèces de trucs, si vous voulez. Voilà. Pardon ?
Celui qui est muet, qui ne dit rien, quoi, Shutter.
Pardon ?
Shutter, c'est celui qui ne dit rien.
C'est ça, c'est ça. Shut, c'est fermé. Hein. Voilà. Et donc tout est comme ça. Vous avez là des choses, alors qu'ils sont, qu'on vous trouvez belles, l'un d'autre, mais c'est même pas. C'est des. Si vous voulez, c'est des œuvres d'art qui n'en ont même pas le statut. Nous gardons nos œuvres d'art avec ce regard compassé dans un musée sur un socle. Là, cette idée-là, ce code-là, il est également mis en cause. Vous voyez, on est décidément toujours devant quelqu'un qui remet en cause les codes qui sont les nôtres. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est donc également un collage. Hein. Je crois que vous l'avez bien vu, c'est une œuvre qu'on peut mettre en lien avec le premier que l'on a regardé, hein, qui met côte à côte des éléments. Je crois que vous avez bien vu certaines des choses. Hein. Il y a un homme, une femme, etc. Hein. Ce personnage un peu spectral et cette femme qui se veut désirable, tout argentée qu'elle est, enfin. Et en même temps, il y a une espèce de volonté par ce collage de. Et ça nous ramène aux œuvres qu'on a vues juste avant, ces choses en céramique, de faire une œuvre qui finalement est une espèce de truc où les choses côte à côte veulent dire beaucoup de choses ou peuvent rien dire du tout. Vous voyez, décidément, cet artiste, finalement très subversif, hein, est là, qui défonce au marteau-piqueur notre espèce de vision de l'art. Vous voyez. Décidément, peut-être, du moins c'est sans doute son avis, trop normé. Et alors, effectivement, on arrive enfin sur ça. Alors, il y en a d'autres, hein, toujours dans ces années 2015. Ça, c'est des œuvres parmi les plus récentes. Hein. Et voilà, l'artiste hein, fait des œuvres comme cela, qui sont donc commandées par un processus informatique, hein, et qui créent une espèce de pseudo-drapeau, mais qui n'en sont pas. Encore des trucs foireux, si vous voulez, hein, mais qui nous évoquent ces codes-là. Donc vous voyez qu'on est chez un artiste tout à fait curieux, tout à fait, encore un exemple, hein, un des plus récents, tout à fait étrange, qui travaille dans beaucoup de médiums différents, dans beaucoup de directions différentes, mais dont un des propos est en permanence, j'allais presque dire, de dévisser nos certitudes. C'est donc un artiste que, pour ma part, je trouve, et encore je vous ai mis là les choses les plus soft, et les plus, comment dire, les plus, oui, les plus, je vais pas dire les plus légères, hein, mais il y a pire, entre guillemets. Hein, il y a plus déconcertant encore. Je trouve que ça, pour ma part, hein, je trouve que c'est un article extrêmement déconcertant qui va tellement dans plein de sens, a priori, dans l'œuvre qu'il propose, qu'on a l'impression d'une œuvre très. Enfin, qui se disperse, mais qui vraiment ramène toujours une chose, c'est encore une fois cette espèce de négation des codes. Vous avez l'idée de. Vous m'avez dit donc un homme, mais vous avez l'idée d'où il est originaire.
C'est peut-être une femme, en fait.
Pardon ?
C'est peut-être une femme.
Peut-être une femme.
Anglaise. À cause des tissus ?
Non,
ça
non. Non, mais il y a eu un L qui est passé.
Oui, il y a eu un L qui est passé. Une femme.
Anglaise. Une femme. Anglaise.
Déjà, l'autre fois, on avait proposé une femme anglaise, c'était pas ça. C'était...
Justement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça.
un
homme d'Allemagne de l'Est.
C'est
la grande surprise.
Oui.
T'as pas bien de charme.
C'est une dame. C'est une dame. Rosemarie Troquel. Rosemarie Troquel est une artiste d'Allemagne, hein, pas de l'Est d'ailleurs, d'Allemagne de l'Ouest. Elle est même de pas très loin, Rhénanie-Palatinat. Hein. Voilà. Rosemarie Troquel, qui est une artiste que je trouve.
Pétillante.
Oui, mais enfin, moi, c'est une artiste qui m'interroge complètement, mais c'est pas forcément un mal. Hein. Autant, si vous voulez, vous voyez, quelqu'un comme Olafur Eliasson, bon, on l'a vu, on comprend, on voit, une espèce de séduction immédiate. C'est quelqu'un comme Kaderatia, on est face à des installations, des choses qui immédiatement, je trouve, permettent des discours et autres. Marina Abramovitch, la dernière fois, nous permettait une espèce d'introspection intérieure un peu infinie, etc. Là, on est devant quelqu'un qui, je trouve, secoue le cocotier. On en tombe plus ou moins, ou pas d'ailleurs, on adhère ou pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui vraiment est une artiste un peu désarçonnante. Moi, c'est là ce que j'ai très longtemps, absolument pas, j'ai rien compris, rien pigé. Un peu comme Kaderatia au départ, mais je trouve que lui, très vite, on... On, voilà. Elle, je trouve que c'est beaucoup plus... Moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué, pour ma part. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment une des... aujourd'hui, dans le panthéon artistique occidental, hein, c'est une des figures les plus en vue. Hein. Rosemary Tranquille, vous la trouverez à New York, à Mexico, à Berlin, bien sûr, à Paris, évidemment, à Londres. Vous la verrez au Cap et puis à Canberra. Enfin, voilà. Et à Pékin, hein, voilà. Donc c'était vraiment une des figures que vous verrez beaucoup, comme l'école des précédentes d'ailleurs. Hein. C'est vraiment une des figures. Alors après, on n'aime pas ça, le problème n'est pas du tout là. Hein. Mais c'est bien de voir, de sortir comme ça certaines de ces personnalités qui sont dans une espèce de panthéon actuel, qui d'ailleurs n'est peut-être pas fait pour rester, hein, mais ça on ne sait pas. Hein. Dans les temps anciens non plus, on ne savait pas. Hein. Des artistes très importants, ils sont toujours aujourd'hui. C'est très important de voir qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Hein. Là, c'est peut-être pareil pour ces artistes-là. En tout cas, Rosemary Tranquille fait partie des gens qui, aujourd'hui, sont très observés, regardés, scrutés. Alors, il était important de les connaître.
Merci.
Et ben voilà. Merci, ben, merci à vous. Et puis, on se prépare pour la prochaine fois. Hein.
Oui.
Ouais.
On aura plus d'indices là, parce qu'on en a deux.
Oui.